Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Kouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Prions. Excellent Père de gloire, une fois encore, nous sommes à tes pieds, nous sommes réunis en ton nom avec toi. Tu as dit que chaque fois que nous sommes plusieurs être réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Sois donc le bienvenu, Seigneur, prends la première place, sois l'alpha et l'oméga ici encore ce soir. Qu'il te plaise, Seigneur, comme chaque fois, comme toutes les fois, d'être avec nous ce soir encore. Que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur, qu'il prenne le contrôle de chacun de nos cœurs. Que ta gloire se manifeste ici, Seigneur. Utilise-moi puissamment dans l'humilité totale, Père Tout-Puissant, pour partager ta parole, pour toucher des cœurs, pour édifier, pour encourager, pour fortifier, pour former, pour nous aider à réussir en toi, Seigneur. Qu'il te plaise aussi de préparer, de disposer chacun de nos cœurs pour te recevoir, chacun de nos cœurs pour te comprendre et pour avoir la résolution, la détermination à te mettre en application. Oui, Seigneur, quand nous t'écoutons, quand nous t'obéissons, quand nous te mettons en pratique, nous sommes bénis. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et qu'en faisant que nous ignorons, Seigneur, tu nous rapproches encore ce soir de la bénédiction. À ceux et celles parmi nous qui sont fatigués de la vie, à ceux et celles parmi nous qui sont découragés, qui ont l'impression que prier est vain, ou que vivre tout simplement est vain, donne, Seigneur, la foi, donne, Seigneur, la force, donne, Seigneur, un regain d'enthousiasme, d'espoir. Appelle-leur que tu es vraiment le Dieu vivant, celui qui répond toujours à ceux qui l'invoquent. Appelle-leur, Seigneur, démontre-leur, faire de nouvelles choses dans leur vie. Ouvre-leur, Seigneur, qu'il y a beaucoup de joie pour ceux qui ont leur espérance en toi. Qu'il te plaise, Seigneur, d'être avec nous ce soir encore, de nous édifier, de nous former de manière extraordinaire comme tu l'as toujours fait. Merci, Seigneur, parce que tu le fais une fois encore. Merci, Seigneur, parce que ce soir encore, tu transformes des vies. Tu sèmes dans nos vies des choses qui porteront des fruits à ta louange, des fruits à ta gloire. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous aides à le faire. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, comme toujours, nous allons commencer par prendre les attentes des uns et des autres par rapport à ce thème-là. Et comme d'habitude, nous allons progressivement répondre à ces différentes attentes-là tout au long du séminaire. Alors, les attentes, les préoccupations. Comment lancer un nouveau produit sur le marché? D'accord. Oui?
Moi, je souhaiterais aussi savoir comment reconnaître parmi toute une gamme de clients qui vous appellent ceux qui paraissent sérieux. Il y a des questions qu'il faut poser pour savoir si le client est vraiment intéressé ou pas. Et comment aussi vendre un produit qu'on n'a jamais vendu?
Vendre un produit?
Un produit intangible qu'on n'a jamais vu.
Comment vendre? Comme quoi, par exemple?
Une parcelle dont tu as seulement des informations, tu n'as pas toi-même pu avoir des détails de près, quoi.
Ok. D'autres attentes?
Ok. Moi, je suis un agent commercial qui arrive sur un marché avec un produit cher et compte tenu de sa qualité. Maintenant, premièrement, je suis arrivé à convaincre les points de vente à référencer le produit.
Le produit est cher, c'est ça?
Oui, compte tenu de sa qualité.
Ça, c'est vous qui le dites, oui.
Oui. C'est-à-dire, je parle par rapport aux produits concurrents qui sont déjà sur le marché avant que je n'arrive, quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Et j'ai arrivé à référencer le produit au niveau des points de vente. Maintenant, au niveau de la consommation, ça ne marche pas. Maintenant, j'ai fait aussi les actions consommateurs, mais ça ne prend pas toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est quoi comme produit?
C'est un jus, par exemple.
Un jus de fruits?
Oui.
D'accord. Ensuite?
Bonsoir. Bonsoir.
Moi, je voudrais savoir comment être à la hauteur au cours d'une négociation.
Oui.
Je veux savoir la stratégie qu'il faut adopter pour que le client soit intéressé par le service qu'on veut lui proposer.
Comment intéresser les clients?
Pour le service qu'on veut leur proposer.
Oui. Qu'on veut leur proposer ou qu'on leur propose?
Qu'on leur propose.
Oui.
Moi, j'aimerais savoir les étapes de la vente.
Les étapes de la vente.
Oui.
Oui, on y va.
Quand je prends les pâtes alimentaires, vous savez, actuellement sur le marché, il y a différentes sortes de pâtes alimentaires. Je suppose qu'une nouvelle société veut également produire des pâtes alimentaires et me demande de me charger de la distribution. Quelles sont les techniques dont je dois disposer pour convaincre la clientèle à pouvoir abandonner les autres au profit de mon produit?
Oui.
Alors, je voudrais aussi savoir comment réduire les charges liées à la vente d'un produit, c'est-à-dire que tout ce que vous dépensez dans le processus de la proposition du produit, les frais de communication, de déplacement, tout ça, comment réduire les charges pour être efficace?
C'est les charges fixes ou c'est les charges variables?
Je donne un exemple. Vous voulez peut-être proposer des parcelles. Chaque fois que vous communiquez avec le client, vous devez vous déplacer pour aller le montrer. Et ça revient souvent très cher lorsque finalement la vente ou bien la location n'a pas été conclue. Donc, quelles sont les stratégies pour réduire ces charges-là au minime possible?
Ok, c'est bon, on peut avancer. Dans tous les cas, vous pourrez toujours poser des questions si, après avoir répondu à tout ça, il y en a encore et tout au long du séminaire. On va donc y aller. Alors, technique de vente et de négociation pour accroître vos revenus. La première chose que je dirais, je commencerai par revenus. Même si vous êtes salarié, votre entreprise est donc à travers vous-même ne gagne de l'argent que parce que vous vendez. À plus forte raison, si vous êtes à votre propre compte, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un opérateur économique, vous êtes obligé de maîtriser les techniques de vente et de négociation. C'est la base de presque tout dans la vie. Pour vendre des produits, pour vendre des services, pour vendre des idées, pour vendre un projet, même pour vendre un candidat, gagner une élection présidentielle par exemple, c'est faire de la bonne vente, c'est vendre aux citoyens qu'on est le meilleur président potentiel pour faire leur bonheur. Se marier à quelqu'un, c'est lui vendre l'idée, arriver à lui vendre l'idée, qu'on est la personne au monde la plus apte parmi ceux qui sont disponibles à le rendre ou à la rendre heureuse. C'est rien d'autre, c'est de la vente. Et d'ailleurs, certainement qu'en parlant de vente, à un moment, je vais vous comparer ça aux relations affectives entre hommes et femmes. Vendre, c'est draguer le client. Et ça marche selon les mêmes règles. Si quelqu'un est un mauvais dragueur, probablement qu'il ne saura pas vendre, à moins d'apprendre. Et si quelqu'un est un très bon vendeur, en général, il sera dragué. Attention, vendre, c'est pas baratiner. Beaucoup de vendeurs sont très mauvais parce qu'ils croient à tort que vendre, c'est bavarder, c'est parler, c'est placer 10 mots pendant que le client en a placé un. Ça ne donne aucun résultat, sinon la plupart des gens qui courent les rues seraient très riches. Or, ils passent un enfant, rien vendu du tout. Donc, le vendeur n'est pas, contrairement à l'idée répandue, le bon parleur qui bavarde beaucoup, qui a placé 10 phrases quand le client en a placé une seule. Un peu comme c'est ailleurs notre ami, souvent vous bavardez, le client vous regarde quand vous avez fini, il vous dit on verra, quand je serai prêt, je vais t'appeler, vous n'avez rien fait. Donc c'est pas la peine de croire que c'est de bien parler la chose. Vendre, ce n'est pas parler. Comme draguer, ce n'est pas parler. Vous mettez devant une fille, vous commencez à baratiner, vous parlez pendant 15 minutes tout seul pour raconter toute votre vie quand vous avez fini, dans le meilleur des cas, elle va vous gifler, sinon elle vous lance et puis vous partez. Parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. On est d'accord. Donc le tout n'est pas de parler. Donc vous devez maîtriser les techniques de vente. Parce que vendre, c'est quoi? C'est convaincre les autres, c'est persuader les autres qu'il est dans leur intérêt, on revient au leadership, de faire le choix que vous leur proposez. Ça peut être le choix d'un produit, le choix d'une idée, le choix d'un service. C'est convaincre les gens qu'il est dans leur intérêt, qu'ils sont gagnants de faire ce que vous leur proposez de faire. Et en général, ce que vous leur proposez de faire a toujours une contrepartie. Ce qui fait qu'ils hésitent, c'est soit de voter pour vous, s'ils se trompent, ils vont le payer cher pendant 5 ans, c'est soit de vous donner leur argent, c'est toi d'adopter un comportement social qui peut constituer une révolution pour eux, comme mettre le préservatif, comme mettre la moustiquaire, comme ainsi de suite. Bref, parce que là, on parlera par exemple de marketing social. Donc, vendre, c'est persuader les gens d'adopter, d'adhérer à ce que vous leur proposez parce qu'ils sont convaincus que c'est dans leur intérêt de le faire. Personne n'achète pour vous faire plaisir. C'est-à-dire, on n'achète pas parce qu'on vous aime bien, on n'achète pas parce qu'on a pitié de vous, on n'achète pas parce qu'on voit que vous avez marché sous le soleil et que bon, non. Ça, quand les gens commencent à agir comme ça, c'est qu'ils vous traitent comme un mendiant. Comment on traite un mendiant? On l'évite autant que faire se peut. Quand on est coincé, qu'on ne peut plus l'éviter, on lui jette une pièce en s'assurant bien qu'il a compris que bon, maintenant qu'on lui a donné, il faut qu'il se fasse oublier pendant quelques temps parce qu'on ne donne pas un mendiant tous les jours. Vous ne pouvez pas bâtir un portefeuille commercial, devenir riche en faisant le mendiant. Et c'est pour ça, moi, ceux qui travaillent avec moi, je suis souvent très exigeant dessus. J'interdis à qui que ce soit d'aller mendier en mon nom sous prétexte qu'il est vendeur.
Je ne veux pas de mendiants et je déteste les vendeurs mendiants. Un vendeur mendiant, c'est le vendeur qui implore la pitié du client pour vendre. Ça, c'est un mendiant. Pardon, tonton, quand même, il faut avoir pitié de moi, je dois vendre, il faut au moins acheter. Même si tu ne veux pas, je vois les filles qui vendent des savons et tout là. Même si tu ne veux pas, il faut acheter juste pour me faire plaisir. Personne n'achète pour me faire plaisir. Il faut arrêter de vous raconter des histoires. On achète parce qu'on croit qu'on est gagnant d'acheter. On achète parce qu'on estime, à tort ou à raison, qu'on a intérêt à acheter. Et on n'achète pas quoi que vous disiez chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas intérêt à acheter, qu'on est perdant d'acheter. Ça, c'est la base. Et si vous maîtrisez cette capacité à amener les gens à comprendre, à être persuadés, à être convaincus qu'il est dans leur intérêt de vous suivre, et dans ce sens-là, comme je le dis encore, le leadership a quelque chose de très présent dans la vente. Vous allez gagner dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la vente des produits commerciaux, mais il y a peu d'endroits où on vous arrêtera parce que c'est une capacité qui ouvre les portes dans tous les secteurs. Ça, c'est au niveau des techniques de vente. Les techniques de négociation. J'insiste beaucoup sur la négociation et je parle d'accroître les revenus comme d'accroître en réalité le pouvoir d'achat. Parce que s'il est vrai que la vente, on le voit souvent comme un moyen d'aller gagner de l'argent, la négociation aide à vendre, oui, à gagner de l'argent. Mais la négociation a l'avantage, dans le domaine commercial, parce qu'il s'applique dans plusieurs domaines aussi, de vous aider à gagner de l'argent autrement. Les gens oublient qu'on gagne autant d'argent en achetant bien qu'en vendant bien. Et je pense même qu'on gagne plus d'argent en achetant bien qu'en vendant bien. Si vous êtes sur un marché où quelqu'un a trouvé un fournisseur qui lui livre un produit à 100 francs, vous avez, parce que vous êtes un mauvais négociateur, et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre vous qui disent « il y a des produits, mon produit est plus cher parce qu'il a de meilleure qualité, personne n'en veut ». La réalité, c'est que beaucoup de vendeurs, soit c'est eux-mêmes qui s'en occupent, soit leur entreprise au niveau des achats n'est pas performante. Ce que certains ont découvert la technique pour acheter à 100 francs, ils l'achètent à 3 francs et ils pensent qu'ils ont fait une bonne affaire. Évidemment, quand quelqu'un achète sur un marché à 100 francs, c'est que tu achètes à 3 francs, même si tu ne mets que 50 francs de marge sur lui, lui va gagner 200 francs de marge, il va vendre encore moins cher que toi. Il va dire, ah, c'est un fraudeur, il est passé par la douane, c'est pas normal, si c'est moins cher, c'est parce que son produit est de mauvaise qualité, alors que c'est tout simplement qu'il a été un meilleur négociateur que toi, un meilleur stratège que toi, et que sur d'autres variables, il a mieux maîtrisé le processus de ses achats, de ses approvisionnements que toi. Si quelqu'un achète mieux que toi, en règle générale, il va te battre à la vente. Toutes choses étant égales par ailleurs. Et quand on parle des Libanais, quand on parle des Yoruba, c'est pas forcément qu'ils fraudent. À cause du volume d'achat, à cause de leur réseau, à cause de leur système d'information, ils ont accès à des tuyaux et à des sources d'approvisionnement auxquelles le petit fonds qui se lève, qui veut se proviser opérateur économique, n'a pas accès. Eux, ils vont là-bas, ils sont 10 commerçants, ils vont prendre 100 conteneurs. Le fonds va là-bas, c'est difficilement qu'ils décochent un conteneur. On peut pas, il ne peut pas avoir match, quelles que soient vos habiletés de vente, il ne peut pas y avoir match sur le marché. Quand un Libanais qui a des boutiques à Cotonou, qui en a à Libreville, qui en a à Ouaga, qui en a à Bamako, qui en a à Abidjan, commande en gros en Chine et finit par envoyer 2 conteneurs à Cotonou, vous achetez un conteneur pour le Bénin, vous oubliez que ce type-là négociant avait négocié sans conteneur. Il n'y a pas de magie pour faire concurrence avec lui, en tout cas au niveau des prix. On viendra après sur comment on peut faire concurrence avec quelqu'un quand on ne peut pas le suivre sur les prix. Donc, quand je parle et que je mets ensemble les techniques de vente et de négociation, c'est aussi bien pour vendre que pour acheter. Quand les temps sont durs comme actuellement, dans votre vie de tous les jours, oui, courez pour gagner de l'argent, mais apprenez aussi à le dépenser. Il ne s'agit pas toujours de se priver ou de renoncer à des achats. Parfois, oui, mais parfois, il suffit de savoir négocier un peu pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est différent de ce que vous avez comme argent. Je peux avoir 1000 francs et avoir un plus grand pouvoir d'achat que celui qui a 2000. Si j'ai 1000 francs et que, à cause de ma capacité de négociation, je peux m'offrir des choses que celui qui a 2000 ne peut pas s'offrir, j'ai moins d'argent que lui, mais j'ai un plus grand pouvoir d'achat que lui. Quand moi, je prends par exemple mon secteur d'activité, j'ai plein de concurrents qui ont 10 fois les moyens que j'ai. Mais j'ai un meilleur pouvoir d'achat et d'impact qu'eux, parce que nous n'avons pas les mêmes stratégies. Donc, vous devez développer aussi votre capacité à négocier. Quand par exemple les jeunes disent « bon, j'ai telle idée, je n'ai pas de capital ». Si moi je vous dis les yeux fermés, allez négocier avec des fournisseurs, c'est parce que ça me paraît évident que vous savez négocier. Évidemment, si vous ne savez pas négocier, il y a beaucoup de choses que je dis qui deviennent difficiles, quand pour moi c'est les yeux fermés, que c'est facile à faire. Celui qui sait négocier, à la limite, il peut avoir ce qu'il veut. Après, c'est qu'il prenne le temps de le faire. Moi, il n'y a pas grand-chose que si je m'assois et que je décide de l'obtenir, quitte à faire quelques ajustements, je ne vais pas obtenir. Mais si vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et mettre en place une stratégie pour l'obtenir, votre pouvoir dans la vie est fortement limité. Vous prenez par exemple, moi, mes collègues au niveau de l'immobilier, mais il y a des trucs sur lesquels tout le monde se met à négocier un prix à la baisse, le propriétaire refuse. Je lui passe 5 minutes, il essaie de baisser le prix. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais il baisse le prix, parfois de manière importante. C'est pareil, un vendeur, il rencontre quelqu'un, il ne veut pas du tout, un acheteur plutôt, il ne veut pas du tout entendre que le prix est non négociable. Dès que je lui parle, il accepte le prix. Donc, ça n'a l'air de rien. Mais au-delà de votre capacité à vendre, votre capacité à négocier rapporte beaucoup plus d'argent que la capacité à parler simplement pour vendre. Vous devriez la développer, la croître par les temps qui courent. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est des techniques transversales. Moi, je rends grâce à Dieu, l'une de mes grandes forces dans la vie, c'est que les choses dans lesquelles Dieu m'a donné d'avoir de la compétence sont des choses par définition transversales. Le leadership, le marketing, le management, la communication, la négociation, la vente, c'est des choses que tu prends dans n'importe quel domaine, ça te fait battre tout le monde. Être médecin ne te fait pas battre tout le monde dans tous les domaines. Être ingénieur ne te fait pas battre tout le monde dans tous les domaines. Être, cuisinier ne te fait pas battre tout le monde dans tous les domaines. Mais être stratège, ça te fait battre tout le monde dans tous les domaines. Savoir communiquer te fait battre tout le monde dans tous les domaines. Être un leader te fait battre tout le monde dans tous les domaines. Savoir vendre et savoir se vendre, savoir convaincre, savoir négocier te fait battre tout le monde dans tous les domaines. Et c'est pour ça que parfois les gens disent, mais tu es dans toi à la fois, je ne suis pas dans toi à la fois. Mais ce que Dieu m'a donné savoir faire, si je rentre dans le secteur de quelqu'un et que je m'y concentre, ce n'est pas possible que je ne le batte pas. Même si je n'ai pas les moyens. Parce que ces choses-là vous permettent de gagner dans tous les domaines. Et c'est pour ça que j'insiste dessus. Les gens ne comprennent pas toujours l'importance. Mais ce qui fait la différence entre un Américain et un Français, entre un riche et un pauvre, c'est des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on n'apprend jamais à l'école. C'est pour ça que nous sommes dans des pays pauvres. On n'apprend pas ça. Les gens font des BTS pendant des années, ils n'apprennent pas ça. Or, c'est ça qui fait gagner. Donc, j'insiste là sur les enjeux de ce thème. Maintenant, je vais peut-être introduire un peu et puis après, je vais répondre aux questions. En répondant aux questions, ça va nous permettre d'avancer. La première chose que je dirais, c'est que la vente est l'activité la plus importante d'une entreprise. Et plus généralement que la vente, plus importante même que la vente, le marketing. Évidemment, la question se pose de dire c'est quoi marketing, c'est quoi vente, c'est quoi communication. Les gens se mélangent les pédales dedans, je vais clarifier tout à l'heure. Mais l'entreprise est un tout. L'entreprise est comme une armée qui doit gagner une guerre. Et dans l'armée qui veut gagner une guerre, il y a plusieurs fonctions. Chacune a son importance. Vous ne pouvez pas négliger une fonction et croire qu'il vous suffit d'avoir des bonnes armes pour gagner. Quand vous prenez par exemple les Ivoiriens, mais Gbagbo les 10 ans, c'est suréquipé. Si c'est les armes, personne ne pouvait le battre. Mais quand l'heure est venue de se battre, les militaires avaient de gros ventes, ils ne savaient pas tirer, ils n'étaient pas entraînés, ils n'étaient pas capables de se battre. Ils pouvaient avoir toutes les armes des États-Unis, il ne fallait pas grand-chose pour le déloger. Regardez au Mali, ils ont plein de soldats, mais ils n'ont pas d'armée. Ce n'est pas parce que vous avez 10 000 soldats que vous avez une armée. Un commando de 10 personnes peut battre une armée de 10 000 soldats comme l'armée malienne. Des kamikazes qui prennent un avion peuvent défier la puissance américaine à deux, si ça leur plaît. Donc l'art de la guerre, l'art de la victoire est toujours le résultat d'un système. Qui dit système, c'est comme la voiture. La voiture ne peut pas être la voiture à cause de la carrosserie seulement, même si vous la voyez. Ça ne peut pas être la voiture seulement à cause des pneus ou à cause du volant ou à cause des sièges. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais tout ça, là, ne vaut rien. On peut te montrer la plus belle voiture du monde. Quand tu démarres, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de moteur dedans. Ça peut être la plus belle voiture intérieure, cuir, tout peut être en ordre dedans. Il n'y a pas de moteur à l'intérieur. De loin, ça brille. Mais ça ne peut rien faire. Il vaut mieux être encore à pied que d'avoir une lourde voiture en or qui n'a pas de moteur. Quand vous prenez le moteur, vous avez dit, bon, c'est ça, l'essentiel, c'est la batterie. Mais il y a des petites pièces, on va vous dire un calculateur, il y a des trucs qui ont même la taille d'une vis. Ça n'a l'air de rien dans le système. Mais ça seul tombe en panne. Une goutte d'eau tombe sur ça, toute la voiture est paralysée. Donc, une voiture, comme un avion, comme le corps humain, écoutez le corps humain, vous êtes là par exemple, tout va bien. Subitement, votre cœur commence à battre et puis vous tombez, vous mourrez deux minutes ou bien vous êtes paralysé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, parce qu'un petit vaisseau qui est là depuis des années, vous n'avez jamais pensé à lui, il ne vous a jamais rien dit, il se bouge deux minutes, c'est fini, pour vous c'est fini. Tout le reste peut bien se porter, un petit pépin là peut vous avoir fini. Donc, les grandes choses, les choses qui marchent dans la vie, sont toujours le produit d'une combinaison de choses. C'est un système. C'est la mise ensemble, la mise en mécanique, la mise en attelage, la mise en dynamique efficace de plusieurs choses qui font le résultat. On ne peut donc pas vouloir, on peut être chanceux un jour en passant, mais on ne peut pas vouloir un bon résultat dans la durée en ne prenant que des morceaux et en croyant qu'il suffit de les toucher pour que tout aille bien. Vous ne pouvez pas prendre la voiture comme certains le font, bon, vous changez les pneus pour mettre des pneus de 4x4. Ça ne fait pas de votre voiture une voiture 4x4. Si ça n'a pas une transmission de 4x4, si ça n'a pas la puissance d'un moteur de 4x4, si ça n'a pas un certain nombre de choses. Donc, l'impression que les gens, qu'il suffit d'eux, il suffit d'eux, il suffit d'eux, est fausse. Faire de la vente, c'est bâtir une stratégie pour faire une guerre qui est compliquée et qui implique beaucoup de choses. Au nombre des choses qui sont impliquées, quand je prends par exemple le cas de la vente, vous avez d'abord le marketing. On a déjà vu ici, je le rappelle très brièvement pour les nouveaux. Donc, pour vendre, il faut d'abord faire du marketing. Mais pour bien comprendre le marketing, je vais d'abord rappeler la définition du management. Parce que le marketing, en fait, ce n'est que le management de la guerre sur le marché. Le management, c'est le fait d'organiser les choses de sorte à réussir à faire ce qu'on veut faire. Le management, c'est l'art d'organiser les choses efficacement pour arriver à réussir ce qu'on veut faire. Cela suppose une démarche globalement en trois points. Première étape, prendre le temps de bien penser à ce qu'on veut faire, à ce qu'on va faire. C'est l'équivalent, par exemple, de la planification, de la vision, de la stratégie. Il faut prendre le temps de penser à ce qu'on va faire. Deuxième étape, se donner tous les moyens de bien faire ce qu'on a décidé de faire. C'est-à-dire d'être efficace, là, d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, d'être efficient, de le faire au moins de coût, de le faire au meilleur rapport qualité-prix, de le faire dans les délais les plus optimums. Donc là, c'est l'action, planification, action. Troisième étape, prendre le temps de repenser à ce qu'on vient de faire ou à ce qu'on est en train de faire. On parlera là de suivi, évaluation. À la fin du deuxième jour, Dieu s'arrêta et vit que c'était bon. À la fin du troisième jour, Dieu s'arrêta encore et vit que c'était bon. Bref, il s'est arrêté tous les jours pour s'assurer qu'il est sur le bon chemin. Et ça, c'est Dieu. Et quand il n'est pas sur le bon chemin, il corrige. Il a créé la femme. C'est une action correctrice parce qu'il s'est rendu compte en évaluant que l'homme était seul. Dieu fait de l'amélioration continue. Faire du management, c'est s'assurer que les choses vont de mieux en mieux. On doit en faire chaque jour un peu plus. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a des endroits dans la Genèse où la Bible dit « Dieu vit que ce qu'il a fait était bon ». À d'autres endroits, on dit « Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon ». À d'autres endroits, on dit que Dieu vit que ce qu'il a fait était très, très, très bon. Il y a une amélioration continue. Il y a un progrès. Bien que ce soit Dieu. Donc, tout ce qu'il fait est bon. Dieu trouve, alors que tout ce qu'il fait est bon, le moyen de passer du bon au très bon, du très bon au très, très bon, et ainsi de suite. Cela doit être le cas dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Cela suppose aussi que vous sachiez d'où vous partez. Il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va et d'où il vient. Si quelqu'un m'appelle pour dire « Je suis en train de venir au club, je me perds. Indique-moi le chemin. Je dois dire « Tu es où ?» Et si tu es au stade d'amitié, je ne vais pas t'indiquer de la même manière que si tu es à toi. La plupart d'entre vous ne savez même pas où vous en êtes. Il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'il y a au commencement. Vous allez voir la première phrase de la Genèse, qui est le livre de gestion de projet de management de Dieu. Au commencement, il y avait. Et Dieu fait l'état des lieux avant de faire de la planification. Il décompose aussi ce qu'il va faire en plusieurs phases, 6 jours, 6 étapes. Il ne fait pas tout avec une baguette magique. Et ici, j'étais Dieu, j'allais. Dieu lui-même ne fait rien avec les baguettes magiques. Il planifie. Il fait les choses en 6 phases. Ce qu'il a fait le premier jour était nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il a fait le deuxième jour. Et n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait le quatrième jour sans ce qu'il a fait les 3 jours précédents. Dieu ne crée pas un homme sans avoir créé les conditions de son bonheur, sans avoir créé où il va rester, qu'est-ce qu'il va boire, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va respirer. Vous créez des clients, vous n'avez pas encore réuni les conditions pour les satisfaire. Ils seront malheureux, ils vont partir, vous allez périr. C'est pour ça que dans, je crois, ça doit être Exode, ou dans le livre de Josué, ça doit être dans Josué plutôt, si je ne me trompe pas. Dieu disait aux Josué, quand ils vont prendre la terre promise là, de ne pas prendre tout brutalement. Voilà, tout ce pays est pour vous. Mais ne le prenez pas d'un coup, parce que vous n'allez pas pouvoir le maîtriser. Les animaux sauvages et les herbes vont avoir le dessus sur vous. Vous devez le conquérir ville par ville. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se mettent tous ensemble, ils vont conquérir une ville. C'est quand elle est conquise, on l'organise, on s'assure que c'est bon. Maintenant, on peut se déplacer pour aller conquérir une autre. Et c'est après ça qu'on donne à chacun la vie qui revient. Si vous avez un grand peuple de 12 tribus, vous dispersez chacun attaquez le pays, vous n'allez jamais rien maîtriser. Les animaux sauvages et les herbes vont vous emporter. C'est pareil en termes de stratégie. On ne peut pas vouloir tout faire du coup au lendemain. Il faut planifier. C'est de la stratégie. Donc, ça, c'est le management. Ça n'a pas été inventé par les Américains, ça a été inventé par Dieu. Comme je vous en ai donné quelques exemples, on peut en parler pendant des jours. Le management, la cogitation des hommes d'action. C'est-à-dire, un manager ne réfléchit pas pour dire que demain va agir. Il ne fait pas des plans qui dorment dans les tiroirs comme dans nos ministères. Non. Il n'agit pas non plus sans réfléchir, sous prétexte qu'il est pressé. Il agit en réfléchissant, il réfléchit en agissant. Donc, le manager efficace, celui qui s'inspire de Dieu pour être efficace dans sa vie, est celui qui réfléchit en agissant, celui qui agit en réfléchissant. Ni agir sans réfléchir, ni réfléchir sans jamais avoir l'occasion de le mettre en œuvre. Ça, c'est le management. Le marketing, ce n'est rien d'autre que le management appliqué au combat sur le marché. C'est-à-dire là, de bien s'organiser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur un marché donné. Ces objectifs peuvent être politiques, peuvent être sociaux, peuvent être commerciaux. La plupart d'entre vous êtes manifestement intéressés par le domaine commercial. Alors, donc, le marketing à ce niveau, c'est là de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour bien penser à ce que vous voulez faire sur le marché, pour réussir à bien faire ce que vous avez décidé de faire sur le marché et pour suivre au fur et à mesure comment ça se passe afin de prendre les actions correctrices. Tout cela pour avoir un bon résultat, l'avoir le plus rapidement possible, l'avoir au moins de coût et s'assurer qu'on s'améliore régulièrement pour fidéliser la clientèle. Naturellement, ce n'est pas possible sans une certaine planification, ce n'est pas possible sans savoir d'où vous partez. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de votre marketing? Généralement, il est catastrophique. Il faut faire un état des lieux, force, faiblesse, pour commencer. Et, plus en détail, le marketing est l'art de la guerre sur le marché. C'est l'art de gagner. Pour gagner la guerre sur le marché, il y a globalement 4 grands piliers, les fameux 4 P. Vous avez un P qu'on appelle produit, vous avez un P qui est prix, un P qui est, je dirais, position, place, et un P qui est promotion, publicité, ce que les gens appellent aussi souvent communication. De quoi il s'agit? Votre stratégie de marketing doit reposer sur ces 4 grands piliers. doit avoir ces quatre grandes composantes. Ces quatre composantes doivent fonctionner en synergie et en harmonie. C'est-à-dire quoi? Écoutez, je ne peux pas porter un costume avec des sandalettes et mettre la serviette du mono dessus. Bon, c'est vrai que des gens s'habillent comme ça, mais évidemment, vous voyez que ça fait tout de suite bizarre. D'accord? Je ne peux pas m'habiller comme un cow-boy et mettre, je ne sais pas, un bomba dessus ou des choses comme ça. Il y a une incohérence. Les choses doivent aller ensemble, doivent être harmonisées, doivent tendre dans la même direction. C'est pareil en marketing. Pour réussir le marketing, il faut faire le management de ce qu'on appelle la politique de produit. C'est-à-dire appliquer tout son devoir au management à ce qu'on appelle la politique de produit. C'est quoi la politique de produit? C'est tout le système, toutes les dispositions que vous prenez pour vous assurer que ce que vous offrez à vos clients, quand on dit produit, c'est aussi service, c'est offre au sens large du terme, est de nature à les intéresser. Tout ce que vous faites pour vous assurer, parce qu'on vend quoi? On vend quelque chose, on vend un service, on vend un résultat, on vend un produit. Tout ce qui est rapport à ce que vous voulez offrir. La question, qu'est-ce que tu m'offres là? La réponse doit se trouver dans votre politique de produit. Les packages, les tailles, les formats, les couleurs, les emballages. Tout ce qui est rapport à ce que vous offrez pour demander l'argent des gens doit se définir, doit se raisonner dans ce pensée. Sa stratégie doit être bâtie dans la politique de produit. Si cette politique de produit est mal faite, vous pouvez avoir 10 milliards de budgets publicitaires. Vous allez faire beaucoup de bruit, mais vous ne vendrez pas beaucoup, en tout cas pas longtemps. C'est ça le problème du marketing. Souvent, les gens font n'importe quoi dans le produit ou dans la politique de produit. Ils fixent leur prix comme ça leur plaît. Ils ont une mauvaise stratégie de distribution et ils pensent qu'il suffit de mettre des panneaux publicitaires dans la ville pour vendre. C'est pas si simple que ça. Ou alors, ils mettent des panneaux publicitaires, ils mettent les produits dans une mauvaise stratégie de distribution, ils croient qu'ils vont vendre. C'est pas possible. Ou alors, ils ont un excellent produit, mais un mauvais prix, tout le reste va être bon. C'est-à-dire que dès qu'un des piliers là a une mauvaise politique ou que sa politique est en contradiction avec les autres, vous avez des problèmes. C'est comme quatre roues d'une voiture. Dès qu'une est crevée, votre voiture est en difficulté. Quel que soit le luxe, la nouveauté et la qualité, la marque des autres pneus. Et si l'une, par exemple, si vos roues arrière ou avant sont trop gonflées par rapport aux roues arrière, on va vous dire, il faut ramener ça parce que le véhicule va avoir tant. C'est pareil en marketing. Il faut réussir chaque roue et s'assurer qu'elle est coordonnée avec les autres. Vous ne pouvez pas, par exemple, vouloir vendre la dernière Mercedes qui est sortie en l'exposant à Dantokpa. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un, par exemple, un bijou en diamant qui coûte 5 millions et mettre ça dans une boutique quelque part à bord de la voie à Fifadji pour dire aux gens de venir acheter là un bijou qui coûte 5 millions. Là où c'est là n'est pas cohérent avec ce que vous vendez. Vous voulez vendre un bijou qui coûte 5 millions, c'est à Ganri, c'est à Revan, c'est à Bene Marina Hotel, c'est à des endroits clés. Personne n'a idée. Même si on voit là, on va dire que ce n'est pas vrai. Personne ne peut venir acheter à Fifadji une bague à 5 millions. De la même manière que si vous allez au Bene Marina Hotel, vous dites que c'est la fête, vous faites un repas qui coûte 1500, personne ne viendra manger. On ne va pas manger au Bene Marina Hotel à 1500. Là-bas, c'est à partir de 10 000 repas ou c'est 7 000, ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas inviter des gens Bene Marina en disant que moi, il y a un bon repas à 750, venez, on va manger. Personne ne viendra. Les gens qui vont Bene Marina Hotel ne veulent pas manger n'importe quoi. Non, même si c'est le meilleur repas du monde, si c'est 750 pour eux, c'est du n'importe quoi. Vous croyez que les gens qui vont porter des costumes de 300 000 là, il y a une différence entre leurs costumes de 300 000 et ceux que certains portent à 50 000, il n'y a aucune différence. Mais il y a des gens qui ont besoin de sentir qu'ils achètent ce qui est cher. Ça leur donne l'impression qu'ils sont chers. Donc, on prend les mêmes produits, on met une autre griffe dessus, on met ça dans une boutique qui est chère, ils paieront le prix. Qu'est-ce qu'il y a dans un repas de Bene Marina Hotel qui n'y a pas dans un repas de maquis? On fabrique des tomates au Bene Marina Hotel, on fabrique le sel là-bas. Qu'est-ce qu'on fabrique au Bene Marina Hotel? Là, nous dit même nul, par exemple. Dans les grands restaurants, vous allez voir dans tous les pays, plus un repas coûte cher, moins il est bon. C'est universel. Mais les gens payent. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas pour manger. Ils payent pour avoir l'impression qu'ils sont assez importants pour manger là-bas. On va parler après des besoins du client. Les clients n'achètent pas toujours pour l'utilité du produit. Les gens achètent pour beaucoup de raisons. Il y a des gens qui vont acheter des choses simplement pour frimer. Ils sont avec des amis qui achètent un cigare. Ils n'ont même jamais pris de cigarette. Ils vont acheter le cigare juste pour montrer qu'eux-mêmes sont dans le move. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils achètent. Ça veut dire que celui-là, il a besoin de paraître. Il a besoin de s'identifier à son groupe. On peut lui prendre plus d'argent dessus qu'en lui vendant quelque chose dont il a besoin. C'est ça le marketing. Donc, si vous voulez réussir à faire du marketing, il faut que, concernant ce que vous offrez, vous ayez pris le temps de définir une bonne politique. Quelque chose d'attractif, quelque chose de compétitif, quelque chose qui plaise aux gens, quelque chose qui s'impose aux autres, quelque chose qui correspond aux habitudes des gens. Bref, toutes les questions qui ont rapport à ce que tu offres doivent faire l'objet d'une stratégie qu'on appelle la politique de produit. C'est pareil au niveau du prix. Vous pouvez avoir le meilleur des produits, il est trop cher, ou alors il n'est pas assez cher. Quand on parle de politique de prix, ce n'est pas seulement de baisser les prix. Une politique de prix peut être mauvaise parce que le produit est trop moins cher. Et vous devez vous assurer que votre politique de prix est cohérente avec votre stratégie. Si vous lancez une compagnie qui est destinée, une compagnie aérienne qui est destinée aux hommes d'affaires, et les billets pour aller à Abidjan coûtent 50 000 francs dessus, vous n'allez voir aucun d'entre eux. Parce qu'à 50 000 un billet d'avion pour aller à Abidjan, vous allez avoir plein de badauds sur le vol. Plein de commerçants de Dantokpa et de Missebo sur le vol. Aucun opérateur économique riche ne veut prendre un vol où il y a plein de badauds. Et l'idée même d'acheter un billet à 50 000 francs lui donne l'impression que vraiment il est diminué. Vous ne pouvez pas lancer une stratégie comme ça et penser que parce que les riches ont de l'argent, que tout le monde veut faire des économies, vont venir nombreux chez vous. Parce que pour eux, votre prix indique que vous devez être une compagnie pour les petits. Ils ne viendront même jamais chez vous pour voir peut-être que vous avez le même service que chez les grands. Votre prix vient leur donner un message sur ce que devrait être votre produit. Même si votre produit n'est pas cohérent avec votre prix, c'est votre problème. Eux, ils présument à partir de votre prix que le produit doit être de tel genre et ils prennent leur décision par rapport à ça. Et si vous n'avez pas une raison stratégique de le faire, parce qu'après tout, c'est ça la stratégie, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Ça dépend de vos objectifs. Par exemple, si mes séminaires étaient payants, il y aurait parfois plus de monde. Parce que, comme c'est gratuit, on se dit, rien de bon n'est gratuit. Mais moi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, sinon, c'est pas comme ça que je le ferais. Celui qui me paye, c'est pas eux. Quand j'ai fait des séminaires plutôt payants, j'ai plus de monde que quand ils sont gratuits. Parce que certains se disent, si ça avait de la valeur, ils ne feraient pas ça gratuitement. Mais moi, je sais quel est mon calcul. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous faites du gratuit, le gratuit peut être mauvais en termes de stratégie. D'accord ? Pareil au niveau du positionnement. Où vous vendez votre produit ? Qui le distribue ? Qui le représente ? Est-ce que c'est accessible ? Ainsi de suite. C'est des questions qu'il faut trancher. On peut aimer un produit et ne pas l'acheter à cause de sa stratégie de distribution. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes par exemple vendeur d'eau minérale. Par exemple, les deux grands, par exemple, FIFA et Post Automain. Admettons que pour une raison ou une autre, par exemple, peut-être que 80% des gens préfèrent boire, par exemple, FIFA. Je donne comme ça, au pif. 80% des gens préfèrent, par exemple, boire FIFA, qui est peut-être même moins cher que Post Automain et qui peut-être même communique mieux que Post Automain. La théorie d'un amateur en marketing serait de dire que donc FIFA va forcément vendre plus que Post Automain. Mais c'est faux. Si, par exemple, Post Automain coûte 500 francs la bouteille et que FIFA coûte, par exemple, 300 francs la bouteille, Post Automain, parce qu'il est à 500 francs la bouteille, donne 200 francs par bouteille à ses distributeurs, buvettes, bars, restaurants qui vendent. FIFA, parce qu'il a une politique de prix moins cher, donne 100 francs ou peut-être même 130 francs à ses distributeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Les distributeurs font le calcul suivant. Si je vends une bouteille de Post Automain, j'ai gagné 200 francs. Je vends une bouteille de FIFA, je n'ai gagné que 130 francs. Même si les clients préfèrent du FIFA, les distributeurs vont tenir plus de Post Automain. Maintenant, il faut pousser l'analyse plus loin. Il y a des produits sur lesquels le client exige ce qu'il veut, il est prêt à attendre de l'avoir. Mais l'eau n'en fait pas partie. Quand quelqu'un a soif, quelqu'un a posé une question tout à l'heure sur comment qualifier les clients, comment percevoir les trucs, on va y revenir. Il faut apprendre à observer le comportement du client sur votre produit pour définir votre stratégie. Quand vous demandez aux gens en théorie qu'est-ce qu'ils aiment boire, ils vous disent par exemple je préfère FIFA. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils boivent plus de FIFA. Quand quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il va au premier endroit où il y a de l'eau, il demande est-ce que vous avez par exemple du FIFA? Si on dit oui, il est content, il boit. Si on dit non, qu'est-ce qu'il fait? Il ne soit pas. S'il a soif, qu'est-ce que vous avez? Il demandera toujours. Et quand vous lui dites, il peut dire, j'aime pas trop pour cette main. Mais il tourne dans 80% des cas, il va dire donner. Parce qu'il a soif. C'est-à-dire que la nature de l'eau et le comportement du consommateur psychologiquement sur l'eau fait que le distributeur a un grand pouvoir pour décider ce que le gars boit, quel que soit ce qu'il aime. Conclusion, il vaut mieux que les distributeurs aiment votre produit parce qu'ils y gagnent plus, même s'il est plus cher, et l'imposent aux clients, que d'avoir un produit moins cher qui va plaire aux clients, mais que les distributeurs ont boycotté. Ce produit-là sera plus cher, mais parce qu'il donne de meilleures marges, il peut communiquer moins, il peut être moins apprécié, il vendra 10 fois plus que FIFA. On va dire, c'est pas normal, les études de marché, les gens sont bizarres, il n'y a rien de bizarre, c'est très logique. Mais il y a un mécanisme derrière que peu de gens ont compris. Et ça, c'est juste pour vous montrer comment on peut en théorie avoir tout réussi et une seule variable du marketing vous dit toute votre stratégie. Là, on ne parle pas encore des vendeurs, hein. Vos commerciaux peuvent bavarder sur le marché, ça ne change rien à ça. Ça, c'est des questions de stratégie d'abord dans le marketing. Et c'est ce que j'explique à beaucoup de gens quand on me parle de la vente. Je dis, mais puisque je dis que le marketing, c'est l'art de la guerre, nous sommes donc en guerre commerciale. Vous devez comprendre cette image. Les vendeurs sont comme, je dirais, des soldats, peut-être des commandos dans une guerre. Si les Français se sont imposés au Mali, ce n'est pas d'abord à cause des soldats français. Il y a eu d'abord le renseignement français qui, pendant longtemps, a préparé le terrain. Ils avaient les plans, ils savaient où se trouvait chaque chose, où se trouvaient les rebelles, où était leur dépôt d'armes. Ils savaient plein de choses sans lesquelles ils n'auraient pas pu en une semaine ou en deux semaines frapper juste ce qu'il faut et en finir. Première chose, on ne le voit pas, mais leurs soldats n'auraient rien fait sans le renseignement. Deuxième chose, il y avait une force de frappe militaire aérienne. Quand ils arrivent quelque part, c'est par les airs qu'ils bombardent, ils cassent d'abord tout. Quand ils ont tout cassé, leurs soldats rentrent sur le terrain maintenant pour prendre les lieux. Ils ne font pas des combats. Ça veut dire que quelle que soit la force de leurs soldats, si, et c'était le cas des armées africaines et de l'armée du Mali, ils n'ont pas les moyens de d'abord tout casser en l'air avant d'arriver. Ils peuvent avoir des soldats meilleurs que les soldats français, mais ils auront moins de résultats. Parce qu'avant d'envoyer les soldats français au sol, les Français ont cassé d'abord par leur avion tout ce qu'ils peuvent par les airs. Voilà des détails qui n'ont l'air de rien. Donc, quel que soit l'entraînement, la force, la compétence de vos commandos, leur efficacité dépend de ce que vous avez fait avant de les envoyer. Est-ce que vous avez bombardé? Est-ce que vous avez de bons renseignements? C'est pareil en marketing. Vos vendeurs ne peuvent pas faire des exploits au-delà d'une certaine limite sur un terrain si la stratégie marketing, qui est l'équivalent du renseignement dans le système d'information en marketing, et l'équivalent du bombardement dans les actions promotionnelles qu'on sort, ne leur a pas préparé le terrain. Beaucoup de gens lâchent leurs soldats, même si c'est les plus grands soldats du monde, on ne peut que les massacrer. 100 soldats, quel que soit leur entraînement, ne peuvent pas prendre le Nigeria. Mais avec du renseignement et du pilonnage aérien, du pilonnage maritime, tu peux prendre le Nigeria avec 100 gars en une semaine. Mais tout dépend de comment tu t'organises. On peut prendre un pays avec 100 personnes, mais pas 100 personnes qui combattent. Mais si vous croyez que vous allez avoir assez de soldats pour attaquer ville par ville, ainsi de suite, rarement vous allez arriver à la capitale. Regardez au Tchad, regardez en Centrafrique. Il y a plein de choses qui se passent, vous n'arriverez jamais. Regardez bien. Donc, le nombre de soldats que les Centrafricains avaient, par exemple, dans leur rébellion, s'ils avaient mis à faire une opération éclair sur la capitale, c'est pas sûr que vous serez encore là aujourd'hui. Mais s'ils l'ont mis à conquérir du terrain, là, ils ne peuvent pas faire des miracles. Et plus votre opération est claire, donc accompagnée par toutes les actions de stratégie dont je parle, plus peu d'hommes peuvent faire de grandes choses. Mais moins la stratégie est bonne, plus à la limite, vous pouvez avoir 100 commerciaux, ils ne pourront pas faire grand-chose. Et si c'est vous-même qui avez votre propre produit, si votre marketing est mauvais, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que beaucoup de problèmes que vous avez dans la vente ne sont pas des problèmes de vendeur qui va bavarder. C'est des problèmes qui sont congénitaux à la stratégie à la base. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le vendeur n'est pas le magicien qui vend n'importe quoi. Il n'est que dans un dispositif comme un soldat, comme un commando de guerre, qui implique beaucoup d'autres choses. L'état-major, le renseignement, la marine, la gendarmerie, les bombardements, les drones, tout ça fait un système. C'est le système qui gagne. Même si on voit que c'est le commando qui va accueillir le chef d'État quand le pays est tombé, le commando n'est qu'en bout de ligne d'un processus. Si le processus est mauvais, le meilleur commando du monde ne peut rien faire. Si le processus est bon, même des soldats moyens, écoutez, quand on a fini de faire le travail, même des Maliens peuvent tenir le Mali parce que tout ce qui est important a été fait. Mais il n'était pas capable d'arriver au point actuel. Pourquoi? Parce que ce qui s'est fait en 2 semaines relève des choses que leur armée n'a pas, relève de ce que j'appelle la stratégie, le système qui fait la victoire, qui n'est pas affaire de soldats. Je ne sais pas si vous me suivez. L'autre chose qu'il faut comprendre quand on parle de marketing, parce que si vous ne comprenez pas bien ça, vous allez vous attendre à ce que les techniques de vente règlent des problèmes qui ne sont pas des problèmes de techniques de vente. Par exemple, moi, plein d'entreprises viennent me voir pour dire « mais je veux communiquer, je veux communiquer ». La première chose que je leur dis, c'est, avant de parler de communication, parlons de marketing. Vous ne pouvez pas venir me dire, je veux communiquer, bon, je veux faire du mailing, je veux faire de la télé. Je dis, tout ça là, c'est, vous mettez la charrue avant les bœufs. Quelle est ta stratégie? Tu veux vendre quoi? Quelle est l'offre que tu as? Quels sont les prix? Il y a plein de choses à régler. La communication ne vient que terminer le boulot. Mais dès qu'on a une idée, on dit, bon, je vais faire la communication. Vous communiquez sur quoi? Pourquoi? En direction de qui? Pour dire quoi? Ah, je ne sais pas, je communique seulement, je fais des annonces. Ça, c'est du gaspillage d'argent, ce n'est pas de la communication. Et beaucoup, même les, c'est pas les petites, hein, même les grandes entreprises, les grandes banques, vous voyez, ils font plein de campagnes de communication. Moi, je connais des gens parmi eux, ça ne donne aucun résultat. Je connais des grandes banques dans ce pays qui ont lancé des produits complètement ridicules. On voit qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Vous mettre 100 millions en campagne de communication, n'avoir aucun résultat. Parce que la stratégie n'est pas bonne. Donc, la communication n'est que l'une des 4 roues de la voiture. Il faut s'en occuper, oui, mais elle ne vous sert à rien si les autres roues ne tournent pas. Ou alors, vous n'irez pas très loin. L'autre chose, c'est quoi? On dit que la finalité de marketing, c'est de satisfaire les besoins du client. Oui, nous avons vocation à satisfaire les besoins du client. Et en tant que chrétien, nous savons aussi, comme Jésus nous l'a bien enseigné, que c'est en servant les autres, en leur lavant les pieds qu'on prospère, qu'on devient puissant. C'est entièrement vrai dans le marketing. Mais la satisfaction des besoins des gens n'est pas la finalité du marketing. L'agent marketing, celui qui fait du marketing parce qu'il veut gagner de l'argent, du pouvoir, une élection, un comportement. Il veut gagner quelque chose chez l'autre. La satisfaction de l'autre n'est que le nécessaire n'est qu'un moyen pour atteindre sa finalité qui est de gagner. Parce que quand on dit aux gens que le marketing est fait pour satisfaire les clients, ils pensent que bon, il suffit que le client se dise qu'il est satisfait, c'est fini. Non, le client est satisfait ce qu'il a payé. Beaucoup de clients sont satisfaits et ne payent jamais. Vous n'avez pas bougé. La finalité du marketing, c'est de prendre l'argent du client. C'est dans le domaine commercial. C'est pas qu'il soit content. Vous pouvez lancer un service, tout le monde applaudit. Il ne vient jamais acheter. Pourquoi? Si c'est gratuit, ils veulent bien. Si ça coûte 100 francs, bon, laissez tomber, on va en parler demain. Vous n'avez rien réussi. Même s'ils sont satisfaits. Alors, présenté comme ça, je vais essayer de vous illustrer un peu le marketing, c'est quoi? Je veux l'argent des gens. Comment avoir leur argent? Je ne peux avoir leur argent que s'ils sont contents de moi et que parce qu'ils sont contents de moi, ils décident de me donner de l'argent. Donc, pour que je reçoive de l'argent de quelqu'un, il faut que la personne soit contente. Donc, quelqu'un de content ou quelqu'un dont les intérêts ont été comblés. Comment quelqu'un peut avoir ses intérêts comblés? Il faut forcément que j'ai un produit ou un service, bref, une offre qui corresponde à ses besoins. Si en donnant à quelqu'un une offre qui correspond à ses besoins, qui peut être content? Et s'il est content, il va me donner son argent. Comment faire pour donner à quelqu'un une offre qui correspond à ses besoins? D'abord, il faut avoir un système d'information, c'est-à-dire pour le connaître. Qu'est-ce qu'il aime? On ne peut pas produire, donner à quelqu'un ce qu'il aime sans savoir ce qu'il aime. D'où l'importance de ce qu'on appelle le système d'information en marketing. Enquête, sondage, questionnaire, discussion, tout ce que vous voulez. Observation. Ensuite, il faut que je produise ce qu'il aime. Donc là, il y a le service de la production. Il faut concrètement réaliser ce qu'on veut proposer au client ou l'acheter si on préfère l'acheter. Ensuite, si j'ai produit, je veux lui donner ce qu'il aime, il ne le prendra pas dans n'importe quelle condition. Il le prendra à condition que ce soit des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire que le prix l'intéresse. Ah, ton produit est bien beau, mais c'est trop cher. C'est fini, je ne le prends pas. Si je ne le prends pas, je ne suis pas content. Si je ne suis pas content, tu n'auras pas d'argent. Attention, quand on parle de prix, ce n'est pas que le coût des choses. C'est le coût de revient des choses, si vous préférez. Je donne un exemple. Une voiture Mercedes peut être moins chère à acheter, mais être plus chère d'entretien. Tandis qu'une voiture Toyota, par exemple, est plus chère à acheter, mais moins chère d'entretien. Les clients intelligents vont avoir tendance à préférer les voitures qui reviennent moins chères. Ce qui peut parfois vouloir dire plus cher d'acquisition et moins cher d'entretien. Donc, il faut vous assurer que vous et le client, vous parlez, ou le client et vous plutôt, vous parlez le même langage, vous avez la même logique du prix. On voit par exemple aujourd'hui plein de gens, ils vendent des imprimantes à 20 000 francs, à 25 000. Mais les connaisseurs savent que les cartouches d'encre sont à un prix tel qu'il vaut mieux changer d'imprimante quand la cartouche d'encre se termine. Tandis que tu as des imprimantes à 100 000, à 200 000, mais c'est beaucoup plus rentable. Donc, ce n'est pas parce que votre imprimante est à 20 000 qu'un connaisseur va l'acheter, il va préférer, si c'est un vrai connaisseur qui imprime beaucoup, acheter une imprimante à 200 000. Parce qu'il fait le calcul que l'imprimante à 200 000 lui revient moins cher, par exemple en laver, que de prendre une imprimante à 25 000, ou quand l'imprimante est terminée, quand tu regardes le prix de la cartouche, il vaut mieux quasiment la jeter. Donc, tenez compte, quand on parle de prix, c'est qu'est-ce que ça coûte. Je peux venir à un spectacle chez vous qui est peut-être gratuit, mais ça me coûte de prendre le taxi la nuit de Calavi pour aller à Kwakwa. Ça fait 3 000 francs aller, 3 000 francs autour. Bon, venir chez toi est gratuit pour entrer, mais ce n'est pas gratuit de venir chez toi. Ça me coûte peut-être 5 000 francs de venir chez toi. Il faut l'intégrer quand tu réfléchis. Et nous n'intégrons pas toujours qu'est-ce que ça coûte aux gens de faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Nous ne regardons que le prix que nous leur fixons. Il faut regarder qu'est-ce que ça leur coûte de faire ce que nous attendons qu'ils fassent et donc intégrer ça dans notre stratégie. Donc, leur donner ce qu'ils veulent, aux conditions qu'ils veulent, nous devons nous assurer de le placer là où ils veulent. Je suis à Cotonou, je veux danser, tu mets une boîte de nuit pour moi à Nati Tingou. Bon, ça peut être la meilleure boîte de nuit du monde, ça peut être gratuit. Je ne peux pas quitter Cotonou pour aller danser à Nati Tingou. Je suis à Godomé. Tu crées une station ultra moderne que tu mets à Kwakwa. Est-ce que je vais quitter Godomé pour aller prendre du carburant à Kwakwa tous les jours? La probabilité est faible. Je ne vais pas habiter Calavi et mettre mes enfants dans une école à PK10, même si c'est la meilleure école de Cotonou, à moins qu'ils aient un internat. Donc, là où vous positionnez les choses en termes de stratégie de distribution, détermine aussi s'ils acceptent de le prendre pour être content. Il y a la position physique sur le marché, mais il y a la position aussi psychologique. Un produit peut être perçu comme un produit bas de gamme. C'est une place dans le cerveau des gens. Un produit peut être perçu comme un produit de luxe. Champagne, Laurent Perrier, Moët et Chandon, vin, Bordeaux, c'est positionné dans la tête des gens comme du luxe. Tellement que même s'il y a du faux, s'il y a du paillot qui coûte 1000 francs, c'est comme les Vlisco aujourd'hui, il y a du Vlisco, du Vlasco, du Vlisco petit, du Vlisco grand. Il y a une série de faux, mais comme les gens ont déjà mis dans leur tête que Vlisco c'est grand, tous les faux de Vlisco profitent de ce positionnement-là pour se vendre jusqu'à ce que les connaisseurs fassent la différence. C'est ça aussi la question de place en termes de stratégie. Donc, vous avez là le produit, vous avez le prix, vous avez la place. Et il faut naturellement que quand tu as fini de faire tout ça, la personne sache que c'est disponible. Et là, on vient à la promotion. Donc, les 4 P ne sont pas là, pas luxe ou pour s'enchaîner n'importe comment. C'est ça la logique. Je veux l'argent de quelqu'un, il faut qu'il soit content. Il peut être content s'il reçoit ce qu'il veut, aux conditions qu'il veut, là où il veut, et qu'il le sait que c'est disponible. Il y a des gens qui ont de très bonnes offres, mais ceux qui pourraient s'y intéresser ne le savent pas. S'ils ne le savent pas, comment ils vont en profiter? Donc, si tu fais tout ça, le gars ne le sait pas, tu n'as rien fait. Mais comment tu peux faire tout ça si tu ne sais pas ce qu'il aime? Il te faut avoir un système d'information, avant, pendant et après l'action. C'est ça le marketing. Ça, c'est le cadre général, à l'intérieur duquel maintenant, vous pouvez développer une stratégie de vente. Mais si ça là, c'est mal fait, vous voyez bien que les vendeurs vont souffrir sur le terrain. Je ne sais pas si vous voyez. Beaucoup de difficultés de la vente, même si les vendeurs ne sont pas toujours bons, sont davantage liées à un mauvais marketing qu'à des mauvais vendeurs. Si un vendeur mauvais, avec un bon marketing, en tout cas, il va moins souffrir. Si un vendeur est très bon, avec un mauvais marketing, il risque tôt ou tard de démissionner parce qu'il comprend qu'il n'y a rien à gagner là. À moins que le vendeur ait de l'influence sur le marketing. Là encore, ça peut aller. Est-ce que j'ai des questions là? Comme ça, j'y réponds et j'avance. Des questions à cette étape-ci? Oui, allons-y.
Vous avez parlé tout à l'heure de connaître l'acheteur. Est-ce que c'est toujours évident d'avoir d'abord tous ces renseignements avant d'aller vers l'acheteur? Ou pendant la discussion, on peut essayer de déceler sa personnalité.
Alors, c'est évident que ce n'est pas toujours, sinon même pas souvent possible, de tout connaître d'un vendeur avant d'aller vers lui. Mais c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un processus. Les vendeurs croient qu'il y a vente quand il y a le rendez-vous commercial où on parle. Ça, ce n'est qu'un des petits maillons du processus de la vente. Quand vous voulez vendre des biscuits, bon, vous pouvez encore vous attendre à ce qu'au premier rendez-vous vous vendez. Mais arrêtez sur les choses sérieuses. Parfois, quand vous voyez, par exemple, on dit, bon, là, s'il vient d'acheter 30 avions Boeing chez les États-Unis, vous imaginez bien que ce n'est pas lors d'une rencontre que ça s'est décidé. C'est parfois 3 ans, 4 ans, 10 ans de travail, d'échange, de négociation, de visite, d'essai, et qu'on sort de voyages diplomatiques, d'accords, de concessions, de tel qui condamne tel, de tel qui soutient tel aux Nations Unies. Mais c'est une série de choses qui, pendant des années, aboutit à ce que la Chine finisse par dire « Je prends 30 avions chez les Américains ». Et il faut être naïf pour croire que c'est le jour où ils ont parlé beaucoup là, qu'ils ont fini par se convaincre. Non. Donc, la vente est un processus, étant une question de stratégie. Surtout quand il s'agit de grosses ventes, et plus une vente est grosse, plus le processus ne se fait pas en une action. Ça commence un jour et ça peut prendre plus ou moins de temps. Parfois, vous n'avez rien jusqu'à un gros résultat. Parfois, il y a des petits résultats en chemin et puis un jour, il y a le gros résultat qui arrive. Donc, si on considère qu'il doit d'abord y avoir le marketing comme stratégie, c'est déjà au moment de faire la stratégie, soit en général sur le marché, soit en particulier pour un client, s'il est un gros client, qu'il faut déjà essayer d'avoir un maximum d'informations sur lui, savoir qu'est-ce qu'il fait. Bref, déjà au niveau stratégique, le connaître autant qu'on peut avant d'y aller. Maintenant, dans ce processus-là, si on arrive à la conclusion qu'on ne le connaît pas suffisamment, si c'est un produit qui est tel qu'on peut convaincre quelqu'un sans trop connaître ses spécificités, quitte à le jauger en y allant, on avance. Mais si c'est un produit, comme certains produits où franchement il faut le connaître, c'est que la première rencontre n'est pas une rencontre de vente. C'est une rencontre de prise de contact, c'est une rencontre de courtoisie, lors de laquelle vous commencez, non pas à faire de placer un produit, mais à faire de connaître le client. Et je le dirai par la suite, en réalité, l'un des grands secrets de la vente, c'est qu'on vend essentiellement à ses amis. Faites toujours la différence entre la vente pour les petits et la vente des choses sérieuses. Parce que c'est deux mondes différents. Moi, j'ai pratiqué les deux. Vendeur de journaux, vendeur de pneus, ça, c'est les petits ventes de tous les jours. Ça n'a jamais enrichi personne. Mais pour gagner de l'argent et dire que je suis un opérateur connu, j'ai gagné des milliards là, ce n'est pas des ventes comme ça de bébés là, non. Ça devient dans des choses sérieuses où les relations comptent beaucoup. Ça peut être vos relations personnelles avec le client, ça peut être les relations de votre patron avec les clients. En tout cas, on fait de grosses affaires rien qu'avec ses amis. Pourquoi les gens font plus d'affaires entre la franc-maçonnerie, au Lyon, au Rotary, à la Jeune Chambre? C'est parce que le réseau est le premier capital du vendeur. Un franc-maçon ne va jamais donner un contrat à 2 milliards à un non-franc-maçon s'il y a un franc-maçon dans son secteur. Là, le marché n'est pas décroché à cause des arguments techniques du vendeur. Il y a quelque chose qui a verrouillé les choses. C'est la relation. Et même si vous n'êtes pas dans un réseau en particulier, votre capacité à développer des affinités avec le client, à faire en sorte à ce qu'il vous aime, à ce qu'au-delà d'un produit à acheter ou à vendre, il y a quand même des affinités entre vous, qu'il vous aime, qu'il vous apprécie. Vous pouvez même avoir d'autres choses ensemble. Vous allez au cinéma ensemble, vous allez peut-être dans la même église, vous faites du sport ensemble, vos enfants sont dans la même école. Ce genre de choses-là vient toujours verrouiller une amitié qui fait que vous pouvez traiter des choses comme des amis que vous n'auriez jamais traité entre un fournisseur et un acheteur. Donc, dans les grosses ventes ou dans les ventes des choses sérieuses, quand on parle en millions, la capacité à développer un réseau d'influence, soit sur une personne, soit sur une série de personnes, est déterminante pour conclure les ventes. Et de ce point de vue, la question de connaître les clients va de soi, pas comme une magie qu'on fait de chez soi, mais comme l'un des objectifs du processus de vente quand il a commencé. À vous d'avancer à un pas, de connaître un peu le client, ainsi de suite. Et je repose la question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme quand je dis vendre, c'est exactement comme draguer. C'est comme si quelqu'un me dit, est-ce que je dois connaître une fille avant de la draguer, parce que je dois savoir qu'est-ce qu'elle aime pour la draguer, ou est-ce que c'est en la draguant que je vais la connaître, ou est-ce que je dois finir la draguer pour la connaître? C'est un peu la question. Est-ce que je dois draguer quelqu'un en disant qu'elle peut être ma fiancée, ma copine, alors que je n'en sais rien, ou d'abord tout savoir si avant de la draguer? Que lui répondriez-vous? Oui, il est important de connaître quelqu'un avant de se mettre avec la personne. Mais il est évident que tu ne connaîtras jamais entièrement quelqu'un tant que tu ne t'es pas mis avec elle. Donc, il y a un minimum de renseignements que tu peux prendre sur la personne, soit en posant des questions, soit en l'observant. Quand tu vois une fille habillée, tu as une idée à peu près du genre de moralité qu'elle a, avant que personne ne te parle, quand tu vois, il y a des choses qu'on voit, d'accord? Quand tu vois les gens avec qui elle mange, les gens avec qui elle est à la récréation, le genre d'habit qu'elle porte, comment elle dépense, quand tu la crois dans une soirée, comment elle se comporte, comment elle danse avec les gens. Quand tu vois certaines choses, à moins d'être un imbécile, on n'a pas besoin de te faire une fiche technique pour que tu saches quel genre de fille c'est. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, hein, là je suis technique. On est d'accord? Donc, tu amasses un certain nombre d'informations sur elle par observation, peut-être par renseignement, peut-être en voyant avec qui elle est, en voyant les gens avec qui elle était, tout ça. Évidemment, quand tu la rencontres, selon le genre d'approche que tu fais, vos premières discussions, les blagues que tu fais, la manière dont elle réagit, tout ça, tu donnes des renseignements aussi sur qui elle est. À partir de ça, tu me dis, bon, mon gars, il vaut mieux fuir. Et là, tu fuis. Ou tu te dis, bon, ça vaut le coup, je m'installe. Ou tu te dis, il n'y a rien de sérieux là, mais il faut m'amuser et foutre le camp après. Vous prenez rapidement, il ne faut pas me baratiner, vous prenez rapidement une décision stratégique. On est d'accord? Pourquoi vous voulez faire comme si vous êtes des petits naïfs? C'est bien cela que vous faites. On va blaguer. Comme Hermione et moi on dit, on a d'abord été dans le monde avant d'être chrétien, donc il ne faut pas que quelqu'un baratine quelqu'un. D'accord? Donc, rapidement, vous décidez. Quand un homme ou une femme, il a décidé d'avance s'il est venu pour jouer, s'il est venu en espion assez longtemps ou s'il est venu en exploration. Ou bien, et c'est pareil pour les femmes aujourd'hui, elles ne se font pas d'illusions. Elles savent qui elles approchent à cause de l'argent, qui elles approchent parce qu'il est chic, qui elles approchent parce qu'il est beau, parce qu'on peut le présenter. Elles ne sont pas idiotes. Elles savent si elles sont en train de dire, bon, je vais voir, ou si elles se disent, ah, lui, il me plaît, je vais essayer d'aller loin avec lui. Sans lui faire un interrogatoire. Imaginez, vous rencontrez une fille, ma chère, tu sais pas, les temps qui courent, la vie pas sortir n'importe qui. Dis-moi, c'est toi, tu es sérieuse. Est-ce que tu es du genre à gaspiller l'argent des hommes, parce qu'aujourd'hui, les femmes gaspillent beaucoup l'argent des hommes. Ah, est-ce que tu es du genre à vouloir si. Et vous commencez à lui poser des questions sous prétexte qu'il faut connaître le client pour arriver à draguer. Elle va vous dire, mais ça c'est quoi? Ou bien, c'est ça non? Ah, quand c'est comme ça, vous ne parlez plus. Mais vous savez comment lui tirer les verres du nez et obtenir toutes ces informations-là sans poser aucune question directe. Ou bien, si le premier jour vous la rencontrez, c'est vendredi, déjà samedi, elle dit qu'elle doit aller chez la coiffeuse, elle a besoin de 10 000 francs, vous comprenez que ah, vous êtes à terrain financièrement dangereux. Si quand vous allez au restaurant, elle prend rapidement 3 Guinness, elle demande un café en plus, elle prend un coup en plus. On n'a pas besoin de vous parler pour que vous sachiez à quel genre de calamité vous avez affaire. Sans avoir posé aucune question. On est d'accord? À la limite, vous pouvez même organiser des activités, juste si vous êtes intelligent, pour voir son comportement. Mais c'est de l'exploration. Et au fur et à mesure que vous découvrez certaines choses, vous réajustez votre comportement. Soit vous sortez, soit vous avancez, soit vous évitez, ainsi de suite. C'est pareil dans la vente. Vous ne pouvez pas attendre de tout savoir si un client avant de commencer. Mais vous avancez en explorant, en décidant si ça vaut le coup de continuer. Bon, on le sait, c'est pas sûr, mais on verra bien. Ah, ça, c'est un gros client, je me concentre dessus, je mets tous mes moyens dedans, ça va finir par arriver. C'est pareil exactement dans la vente. Donc, ne tombez pas sur un client pour commencer à faire un interrogatoire. C'est aussi inefficace que de voir une fille commencer à lui poser des questions pour savoir si elle est digne de vous. Mais vous devez quand même vous débrouiller pour obtenir ces informations parce que sans ces informations, vous êtes en danger. J'ai répondu à votre question, c'est assez clair. Moi, ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Et c'est exactement ça. Quand vous avez des difficultés en tant que vendeur, rappelez-vous, vendre, c'est comme draguer, c'est le même principe. Et je raconte souvent l'histoire d'une amie que j'avais au Canada, mais qui était camerounaise, qui disait, parce qu'à un moment, son copain a changé et puis il était très capricieux. Et je crois que les gens disaient, mais il a changé. Et elle a dit, non, il n'a pas changé. Il a simplement terminé sa phase marketing. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que le marketing vient chercher là? Et elle m'a expliqué, je trouve ça tellement pertinent. Elle dit, oui, mais les hommes, c'est comme ça. Vous ne changez pas. Quand vous rencontrez une femme, vous cernez rapidement qu'est-ce qu'elle veut comme homme, quels sont ses besoins. Vous vous débrouillez pour être exactement comme ça, donc vous faites du marketing. La personne voyant qu'il y a une conformité entre ses attentes et vous, vous dites, ah, voilà l'homme idéal. Et quand vous avez eu le bon de commande, vous redevenez qui vous êtes et puis on dit que vous avez changé. C'est avant que vous avez changé. J'ai trouvé ça tout à fait vrai. Évidemment, c'est vrai aussi pour les femmes aujourd'hui. Mais c'est ça que les gens font. Quand ils veulent conquérir le cœur de quelqu'un, ils se débrouillent pour cerner rapidement qu'est-ce qu'il aime, pour être comme il aime, pour avoir le bon de commande. Et quand il a le bon de commande, il fout le camp. Mais on bâtit une relation durable dans la vie comme dans les affaires avec des gens, non pas en se précipitant juste pour les cerner, prendre le bon de commande, foutre le camp. On les cerne, on prend un bon de commande, on les satisfait, on les fidélise et on en fait des clients qui vont apporter longtemps de l'argent. C'est ça la différence entre une relation passagère et une relation qui devient un mariage. Et c'est pareil dans les affaires. Comme dans les affaires, comme dans le sexe, il y a des relations de prostitution et des relations d'amour. On peut avoir un gros client avec qui pendant des années, on s'aime bien, on se connaît, on se fait des faveurs, on se fait être ensemble. Comme il y a des clients qui sont comme des prostituées, viens, ils s'en foutent de tout ce que tu as dit là. Moi, je veux le prix, mon cher, donne-moi le prix, je fous le camp. Il ne veut même pas se fatiguer, être fidélisé. Il ne veut pas. Des fois, il ne veut même pas donner son numéro de téléphone. Je suis venu pour acheter, vends-moi, puis moi, je m'en vais. C'est pareil dans les affaires. Vous devez réaliser ces choses-là et les intégrer. Alors, on va peut-être essayer de répondre à vos questions. Comment présenter un produit? Alors, à cet effet, je dis souvent ceci. C'est déjà une erreur que de vouloir présenter les produits comme nous le faisons souvent. C'est-à-dire, nous donnons l'impression que le vendeur vient, il présente la société et il commence à présenter son produit de manière linéaire. Ah, mon produit a tel avantage, il fait ci, il fait ça, il commence à parler. C'est mauvais. Moi, je suis de ceux qui croient que dans une vraie vente, le vendeur parle moins que l'acheteur. Et c'est pour ça que celui qui dit qu'il a pour problème le fait que le client ne réagissait pas a un vrai problème. Un client qui ne réagit pas ou qui ne réagit pas beaucoup est plus dangereux qu'un client qui parle beaucoup. Le client qui parle beaucoup, qui prend la peine de vous dire « je n'aime pas ci, je n'aime pas ça », un très bon client. Il vous dit qu'est-ce qui bloque dans sa tête. Parce que vendre, c'est quoi? C'est que vous avez dans la tête, dans l'esprit de chaque client, un plateau. Du côté gauche, au côté gauche, vous avez par exemple le plateau des inconvénients. Des raisons qu'il a de ne pas acheter. De ce qu'il perd à acheter. Des risques qu'il prend en achetant. Et ces choses-là sont comme des poids qu'il y a dans le plateau du côté gauche dans son cerveau. Du côté droit, vous avez un autre plateau où là, il met les choses, les raisons qu'il a d'acheter. en quoi c'est intéressant pour lui d'acheter, en quoi c'est avantageux pour lui d'acheter. Quand dans sa tête, dans son esprit, dans sa perception, et en marketing, la perception est plus importante que la réalité. Si les gens disent qu'eux, ils ne préfèrent boire que du Laurent Perrier, ils vont payer le prix de Laurent Perrier 10 fois le prix d'un champagne ordinaire. Mais en réalité, ils ne savent rien au Laurent Perrier. Servez du Laurent Perrier, servez un champagne paillot dans des verres, appelez-les, dites-leur où est Laurent Perrier. Beaucoup de gens ne peuvent pas vous dire là où est Laurent Perrier, là où est le mauvais champagne. Si vous voulez faire l'expérience. Aujourd'hui, les femmes portent plein de tissus faux, plein de sacs faux, plein de chaussures fausses. Certaines reconnaissent, d'autres ne font même pas la différence entre le faux et le vrai. Et pourtant, elles sont prêtes à payer le prix du vrai. Des fois, vous allez avoir un ouvrier qui vient travailler pour vous dire « Ah, c'est plus cher parce que ça, c'est la qualité. » Dans tous les cas, il te livrera le paillot au prix de la qualité pour faire une marge. Mais comment toi, tu sais ce qu'est la qualité? C'est lui qui dit que c'est la qualité. Toi, tu apprécies que c'est la qualité comment? Si tu ne connais pas le vrai, tu ne connais pas le faux. Comment tu différencies les deux? La plupart des gens n'en savent rien. Mais nous sommes tous prêts à payer sous prétexte que c'est la qualité. Donc, nous payons la perception, l'impression que nous avons du vrai et non pas le vrai. Ce pourquoi nous payons, ce n'est pas le vrai. C'est l'impression que c'est vrai. Et c'est pour ça que les gens croient que le marketing permet de mentir. Non. C'est vrai qu'en mentant en marketing, tu peux faire des victoires ponctuelles que tu n'aurais pas fait sans mentir. Parce que les gens sont manipulables étant donné qu'ils regardent beaucoup les perceptions. Mais je réponds toujours aux gens et surtout aux chrétiens, bien mal à qui ne profite jamais. 1. 2, on peut mentir à tout le monde quelque temps. On peut mentir à quelques personnes tout le temps. Mais on ne mentira jamais à tout le monde tout le temps. Donc ça ne sert à rien d'avoir pour stratégie en marketing, même si on sait mentir le mensonge. Il faut bâtir les choses sur la vérité. On peut gérer la vérité, mais ça ne sert à rien de dealer avec le mensonge. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, les gens agissent par perception. S'ils perçoivent que les avantages à acheter votre produit ou votre service sont plus lourds que les inconvénients, ils l'achètent. Mais s'ils perçoivent, s'ils pensent, s'ils ont l'impression, à tort ou à raison, ce n'est pas important, c'est juste l'impression. Et c'est pour ça que quand les vendeurs parlent beaucoup pour convaincre le client là, ils parlent pour rien. Ce que vous pensez n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est ce que le client pense. Qu'il ait raison ou pas, c'est ce qu'il pense qui fait la décision. Donc, votre opinion ne veut rien dire. Ce n'est même pas la peine de l'exprimer, ça ne sert à rien. Et vous ne pouvez pas changer l'opinion d'un client sur quelque chose. Son opinion, c'est son opinion. C'est comme les goûts. J'aime le rouge, j'aime le rouge. Il n'y a pas de discours à me faire pour que je n'aime plus le rouge et que je commence à aimer le bleu. Et pas parce que vous êtes vendeur que si je déteste le rouge, vous allez me convaincre que je dois m'habiller en rouge. Quel argument vous voulez utiliser pour que si je déteste le rouge, je m'habille en rouge? Vous perdez votre temps. Le bon vendeur n'essaiera pas de transformer quelqu'un qui déteste le rouge en quelqu'un qui aime le rouge. Il va essayer de le convaincre que bien qu'il n'aime pas le rouge, soit on peut lui changer la couleur du véhicule et qu'il achète quand même, soit que le véhicule a d'autres avantages qui sont tellement importants que le problème du rouge n'est qu'un petit détail. Mais il ne va en aucun cas confronter le client pour lui faire admettre que le rouge est bien, s'il est intelligent. Parce que souvent, quand les vendeurs veulent vendre, ils oublient un principe important. Quand vous discutez avec quelqu'un qui a une opinion, surtout une opinion personnelle, et que vous vous mettez en tête de lui démontrer qu'il a tort et de lui demander de reconnaître qu'il a tort, vous l'humiliez. Chacun de nous a un côté un peu orgueilleux qui fait qu'il se sent humilié quand on lui fait dire ou qu'on lui démontre que sa première idée était fausse ou que sa première impression était mauvaise. Je reviens à draguer. Si vous draguez une femme ou une fille et devant faire copine parce que le premier jour vous y êtes mal pris, elle dit ce gars ou là, jamais, c'est fini, il faut laisser tomber. À moins de vouloir sortir peut-être avec vous en cachette, elle ne sortira plus jamais avec vous, même si en temps elle découvre que vous êtes quelqu'un d'intéressant, parce qu'elle va se rappeler de toutes celles devant qui elle vous avait humilié. Qu'est-ce qu'elles vont penser d'elle? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il n'y a rien de plus dangereux qu'un client qui vous dit non en public ou pas écrit. C'est très difficile à changer. C'est pour ça qu'il faut éviter de poser aux clients des questions qui font dire non. On ne pose jamais à un client une question dont la réponse peut être non. Débrouillez-vous pour ne jamais poser à un client une question dont la réponse peut être non. On ne pose à un client que des questions dont la réponse peut être oui ou autre chose, mais jamais non. Je vais vous l'illustrer. Puisque c'est ça que vous comprenez bien, je vais prendre un exemple que vous comprenez bien. Vous voulez coucher avec une fille. Vous ne pouvez quand même pas vous permettre de dire, mademoiselle, est-ce que tu es d'accord pour qu'on couche ensemble ce soir? Même si elle est d'accord, elle va vous gifler. Normalement, à moins que ce soit vraiment une prostituée. On est d'accord. Mais vous voulez le savoir. Si vous lui demandez qu'elle dit non, c'est fini. Pour au moins une raison d'orgueil, pourra faire devenir 1000 fois plus compliqué. Qu'est-ce qu'on est censé faire si on est intelligent? Et c'est pareil dans la vente. On avance étape par étape. Est-ce que tu veux qu'on aille prendre un pot ce soir? Si elle dit déjà non à ça, c'est que dans tous les cas, elle aurait dit non à l'autre. Mais si elle dit non, bon, c'est pas grave, un pot qu'elle a refusé, c'est pas encore grave. Elle peut dire, ah bon, passe ce soir un autre jour. Bon, elle n'a pas dit non complètement, c'est encore ouvert. Admettons qu'elle dise, ok, on y va. Ou bien si vous voulez même pas que déjà là, elle risque de dire non, si je te proposais d'aller prendre un pot ce soir, tu préfères par exemple le Festival des Glaces ou bien le Big Garden? Ce soir, j'ai pas le temps. D'accord, on verra une autre fois. Elle n'a pas dit non. Il faut savoir poser des questions, ou soit en donnant le choix à quelqu'un, par exemple, bon, si je vais t'inviter demain soir pour qu'on aille prendre un verre ensemble, tu préfères que ce soit vers 17h plutôt vers 20h. C'est des questions qui amènent la personne dans la réponse qu'elle donne à vous dire oui ou non, ou à vous reporter la chose, mais sans se retrouver en situation de vous dire non, qui peut devenir une référence par rapport à laquelle elle a peur de changer d'avis. Parce que l'être humain n'aime pas changer d'avis. Quand il change d'avis, comme le dit Descartes, je pense donc je suis. Quand vous poussez quelqu'un à changer ce qu'il pense, c'est comme si vous lui demandez de se renier. Celui qui veut se renier se sent humilié. Donc les hommes n'aiment pas, les hommes et les femmes, donc hommes grand H, n'aiment pas s'humilier. Donc vous ne pouvez pas débattre avec quelqu'un et le convaincre qu'il a tort de changer d'avis. Si vous arrivez même à le convaincre, il ne l'admettra pas orgueil, pas. Et s'il l'acceptait, c'est qu'il est humilié. Mais vous ne pouvez pas m'humilier, je vais mettre la main dans la poche pour vous donner de l'argent pour vous récompenser en plus. Il y a des vendeurs qui ont parlé, qui ont convaincu un client, mais parce qu'ils ont démontré au client qu'il avait tort, le client se sentant humilié, n'a pas acheté chez eux. Il le laisse partir, il va acheter chez quelqu'un d'autre. Ça arrive très souvent. Ça arrive très très souvent. Quand vous faites un débat avec un client, le client découvre que c'est vous qui avez raison. Ce que vous proposez est intéressant. Mais comme vous avez déjà dit non par orgueil, il n'achètera plus chez vous. Parce que vous, vous avez commis comme péché de l'humilier en lui démontrant qu'il a tort, qu'il réfléchit mal. Il va vous punir en ne vous donnant pas le plaisir de découvrir que vous aviez raison. Vous allez partir, il appellera un de vos concurrents, même si c'est un peu moins bon, il va préférer faire avec un dédire devant vous. Et donc je disais, vous invitez la personne au restaurant, elle dit oui, c'est un point de gagné. Si vous finissez avec le restaurant à 21h, vous dites bon, je te rends directement à la maison, tu permets que j'aille prendre quelque chose rapidement à la maison chez moi. Si elle vous dit non, je vais directement à la maison, il fait tard, bon, elle vous a répondu à votre question très clairement, mais vous n'avez pris aucun risque. Elle dit d'accord, ok, passons chez toi, tu es dans quel quartier tel, ok. Vous arrivez à la maison, tu préfères attendre dehors, bien tu vas rentrer, je n'en ai que pour 2 minutes. Si elle dit je préfère attendre dehors, c'est clair. Si elle dit ok, rentrons, vous venez de faire un autre pas. Si elle arrive à l'intérieur, vous êtes dans votre chambre, tu ne veux pas venir voir à quoi ressemble ma chambre, elle dit non, je suis trop pressé, fini, on va y aller. Elle ne vous a pas dit non. Mais si elle dit ok, je vais rentrer dans ta chambre pour voir ce qui se passe, ça devient intéressant. Et vous avancez étape par étape. Mais vous ne prenez pas le risque, en étant loin du résultat, de poser une question pour dire mais tu ne veux pas acheter. La personne dit non, vous êtes encore à l'école, vous n'avez pas obtenu d'aller prendre un verre avec elle. Bon, ça n'a aucune chance. C'est pareil avec un client. Quand vous discutez avec le client, vous avez des arguments, vous présentez votre produit et tout ça. Quand vous avez envie de savoir si le client veut acheter, vous n'êtes pas obligé de dire est-ce que vous allez acheter, est-ce que vous êtes d'accord pour acheter. Non, parce que généralement, c'est des questions qui se terminent par un non, que le client peut même dire avant de réaliser. Et après, s'il change d'avis, il ne voudra plus revenir sur son non. Ah, je vous ai parlé de ce terrain, ça vous dira d'aller le visiter, vous préférez qu'on le visite ce soir ou demain. Il peut dire, bon, quand j'aurai le temps, je te ferai signe. Ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Mais il peut dire, bon, je préfère demain 10h. C'est déjà un grand pas. S'il accepte d'aller visiter le terrain dont tu viens de lui parler, ça veut dire que ça l'intéresse. Ah, dans l'hypothèse où après la visite, ça vous intéresserait, vous préférez nous payer par chèque ou bien vous préférez payer en cash? Parce qu'il faut que je prévienne notre comptable que vous allez apporter beaucoup d'argent demain. Ça va être plutôt du cash, je n'aime pas transporter de l'argent. Ça veut déjà dire que dans sa tête, il est proche d'une décision. Il peut dire, non, attendez, quand on va visiter, on verra tout ça après. Ah, est-ce que vous pensez qu'il faut faire la visite avec votre épouse ou bien vous allez prendre la décision tout seul? Ah, parce que c'est le mari qui dit, je connais beaucoup de gens, ils vont faire des visites, ça va lui plaire, il va rentrer, il va en parler à son épouse, il va dire non, elle n'a pas d'argent actuellement, tout ça, elle va gâter tout votre travail. C'est-à-dire, elle vous a dit, mais est-ce qu'on fait la visite avec votre épouse ou bien vous voulez qu'on y aille tout seul, vous allez l'amener après. Donc, étape par étape, sans poser la question de tu veux acheter ou pas, vous obtenez quand même de savoir psychologiquement où en est le client par rapport à tout ce que vous avez dit. Et sa réponse vous permet de savoir ce que vous avez déjà gagné et ce qui n'est pas encore gagné, afin de savoir que c'est sur ça que vous allez travailler. C'est ça la vente. Et quand vous maîtrisez ça, c'est quelque chose qui se fait de manière très soft. On n'a pas besoin d'être coincé, de réciter ce qu'on va dire d'avance, d'être stressé. C'est une relation normale dans laquelle il faut faire preuve d'un peu d'intelligence sociale. Et donc, le vendeur ne doit pas chercher à présenter un produit au client. Non. Et on apprend quelque chose à l'école qui est faux. L'école nous dit qu'un produit, et les livres aussi écrivent, moi je suis entièrement contre cela, qu'un produit a des avantages et qu'il a des inconvénients. Et les gens font ce qu'ils appellent l'argumentaire, qui consiste à faire la liste des avantages d'un produit. Et certains même s'amusent à faire la liste des inconvénients. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que par définition, la notion d'avantage est une notion d'appréciation. Je ne peux pas dire, voilà les belles femmes de Cotonou. Voilà les femmes que je trouve belles à Cotonou. Mais il n'y a pas de femmes belles par définition ou de femmes vilaines par définition. Il y a celles que je trouve belles et il y a celles que je trouve vilaines. C'est mon avis. Parmi celles que je trouve vilaines, quelqu'un peut venir trouver que celle-là, c'est la Miss Bénin. Et ça arrive d'ailleurs souvent. C'est pas si vous me suivez. Non, je ne peux pas commencer à faire le catalogue des choses qui sont bien, des choses qui sont mauvaises quand on parle de vente. Je ne peux que dire à la limite ce que moi j'aime et ce que je n'aime pas. Cela veut dire que c'est au client de dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Vous ne pouvez pas aller chez un client en ayant décidé à sa place qu'est-ce qu'il est censé aimer et qu'est-ce qu'il est censé ne pas aimer. Les argumentaires consistent à décider dans son bureau qu'est-ce que le client est censé aimer. Au nom de quoi? Vous pouvez venir me voir en ayant décidé les femmes que je dois trouver belles. Et quand je dis qu'elle est vilaine, celle-là, vous commencez à faire un débat avec moi en tant que vendeur, sous prétexte que vous êtes vendeur, pour me convaincre que celle-là, je dois la trouver belle. Mais c'est ce que les vendeurs font, sous prétexte de défendre leurs arguments. Ça n'a aucun sens, c'est de l'aberration. La réalité, c'est que un produit ou un service a des caractéristiques. Ça n'a pas d'avantages, ça n'a pas d'inconvénients. Le produit a des caractéristiques. Le client a des besoins, il a des attentes, il a des peurs, il a des doutes, il a une série de choses. Selon ses besoins, ses attentes, ses peurs, sa personnalité, ses moyens, le client peut trouver certaines des caractéristiques de votre produit très avantageuses et trouver d'autres très désavantageuses. Plus il voit beaucoup de choses avantageuses, plus le produit risque de l'acheter. Plus il voit beaucoup de choses désavantageuses, moins il risque de l'acheter. Je précise attention qu'il s'agit d'une question de poids et non d'une question de quantité. Exemple, un produit peut avoir 1000 inconvénients du point de vue d'un client et avoir un seul avantage et ce client va le choisir. Je ne parle même pas de mon avis, de l'avis du client. Je donne un exemple. Vous prenez la chimiothérapie. Quelqu'un a le cancer. Au nom de Jésus, personne ne l'aura jamais ici. Vous lui dites, bon, il n'y a qu'une seule solution pour avoir un petit espoir, même si c'est un espoir mince. C'est de faire la chimiothérapie. Ça a plein d'inconvénients. Tu vas avoir mal, tu vas maigrir, tu vas vomir tout le temps. Tu vas être tout le temps alité, ça va te coûter des millions. Tu vas perdre tes cheveux, tu vas vieillir. Vous dites tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est la seule chance que tu as d'avoir une petite possibilité d'espérer vivre. En théorie, si c'est à la quantité des inconvénients et des avantages qu'on doit décider, ce truc-là n'a qu'un seul avantage, c'est peut-être 2% de chance de plus de vivre. Mais ça a 1000 inconvénients. Mais la plupart des clients vont le choisir. Pourquoi ? Ce seul avantage qui est 2% de chance de plus de vivre vaut 1000 inconvénients. Je veux dire par là, quand vous parlez à un client, vous êtes en train de discuter avec un client, et il commence à vous citer des raisons qu'il a de ne pas aimer votre produit, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ce n'est pas parce que en 10 minutes, le client vous a donné 20 raisons de ne pas aimer votre produit qu'il n'achètera pas. Il peut vous donner 20 raisons de ne pas aimer, finit par dire, ça fait que moi, ton terrain là, je ne l'aime pas. Mais je ne sais pas pourquoi c'est ce quartier là qui plaît à mon épouse. Bon, elle n'a qu'à venir voir si ça lui plaît, elle n'a qu'à acheter. Le fait que ça plaise à son épouse, bat tout ce qu'il vient de vous dire pour dire que lui n'aime pas ça. C'est ça la vente. Ah, un client, un vendeur qui n'est pas expérimenté, quand le client commence à parler comme ça, il panique, il commence à discuter avec le client, mais non, et puis il se sent obligé de tout corriger. Tu ne peux pas tout corriger. Il n'aime pas, il n'aime pas. Tu es obligé de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait contrebalancer tout cela. Quelque chose qui pourrait relativiser tout cela. Quelque chose que tu peux lui dire de nouveau qui peut changer complètement sa perception de l'équilibre des avantages et des inconvénients. Mais en aucun cas, tu ne peux dire à un client, tu as tort de ne pas aimer. Je ne sais pas où est-ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas discuter le goût du client. Vous ne pouvez que, vous savez, c'est comme au niveau de la caméra. On peut aller à un séminaire où il y a 3 personnes. Un bon caméraman fait un plan, on voit les 3 personnes sous différents angles, devant, derrière, tout ça. On voit le podium, on a l'impression que la salle est pleine. Selon l'angle de prise de vue, selon le zoom qu'on fait, on peut donner différentes perceptions de la même réalité. Vous pouvez prendre une salle, faire le zoom sur un gars qui est pauvre, sale, habillé dans la salle, vous montez tout le temps ça, tout le monde va dire, mais à ce séminaire, il n'y avait personne de sérieux. Vous prenez la même salle, vous ne filmez que des gens qui sont bien habillés, rayonnants, souriants, les gens auront une autre impression du même séminaire. Les deux étaient dans la même salle. Quand vous pouvez montrer le total, tout dépend de ce sur quoi vous faites le zoom. Le vendeur est celui qui va manipuler l'esprit du client pour qu'il fasse le zoom sur les choses qui l'arrangent et qu'il fume d'aussi loin que possible les choses qui ne l'arrangent pas. Ah, le quartier n'est pas bon, je n'aime pas ci et puis ça, vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Plusieurs clients disent ça. Mais en général, ils finissent par acheter parce que pour avoir quelque chose à moins de 10 000 à Cotonou, ça, c'est vraiment des petits détails. Ils regardent ça, ils regardent ça, ils regardent ça et ils se disent que ça va prendre la valeur, ça va valoir le double dans 2 ans. Donc, malgré ça, qu'ils disent tous, ils finissent tous par trouver que finalement, c'est quand même la meilleure affaire qui soit. Ça dépend, c'est à vous de voir. Vous venez subtilement de dire tout ça là, c'est bien vrai. Vous n'avez pas à discuter avec un client, c'est vous. C'est pas la peine de vous fatiguer ou de chercher à le frustrer parce que. Quand vous discutez les goûts du client, vous rentrez rapidement en débat stérile. Vous ne pouvez que jouer pour relativiser dans son esprit ce qu'il n'aime pas et pour grossir dans son esprit ce qu'il aime. Ça suppose que vous devez percevoir rapidement en l'écoutant, en le voyant parler, en le voyant raisonner, qu'est-ce qu'il aime pour faire le zoom dessus. Qu'est-ce qu'il semble ne pas aimer pour rapidement éloigner la caméra. Or, quand vous commencez à discuter ce qu'il n'aime pas, vous êtes en train de faire le zoom dessus. Donc, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Quand un client dit quelque chose qu'il n'aime pas, ne revenez plus dessus. Laissez-le l'oublier. Plus vous revenez dessus, plus vous le concentrez dessus. Quand il dit ça une fois, priez pour qu'il n'en reparle plus, oubliez ça. Mais dès qu'il aime quelque chose, arrêtez-vous dessus, tirez dessus, amplifiez ça, aidez-le à bien comprendre, vous avez raison. Et puis effectivement, c'est une question de zoom. Mais c'est lui qui aime ou qui n'aime pas. Vous ne pouvez que manœuvrer ce qu'il aime pour le grossir, manœuvrer ce qu'il n'aime pas pour l'éloigner. Ça suppose que vous connaissez parfaitement votre produit. Parce que vous êtes comme un architecte qui doit pouvoir construire des ponts entre les caractéristiques de votre produit et les caractères, les tendances, les goûts de votre client. Plus vous connaissez bien vos caractéristiques et bien votre client, plus vous allez pouvoir construire des ponts. Plus il y aura de ponts, plus il y aura de ventes. Mais si vous ne connaissez pas bien les caractéristiques de votre produit, il peut y avoir des ponts potentiels que vous ne percevrez pas. Je donne un exemple. Vous voulez vendre par exemple un sèche-cheveux à une femme. Elle dit, bon, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher, et puis bon, je peux aller voir ma coiffeuse pour me sécher les cheveux si exceptionnellement j'ai un problème. Tout ça, c'est vrai. Mais si par exemple, vous savez, et beaucoup de vendeurs ne le savent pas, que par exemple, dans les pays développés, certaines femmes, quand par exemple il fait chaud, utilisent leurs sèche-cheveux pour se, quand il fait froid, utilisent leurs sèche-cheveux pour se sécher les mains, pour se chauffer les mains. Certaines utilisent leurs sèche-cheveux pour dégivrer leur congélateur. Quand le congélateur est givré, elles souffrent de l'air chaud. Ah, vous n'y avez jamais pensé. Quand vous avez commencé à dire ça, à la dame a dit, ah, avec tout ça, ça change tout. Je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait faire ça. Qu'un enfant qui a froid, on peut rapidement lui mettre ça dessus en attendant que le médicament qu'on lui a donné commence à faire l'effet. Oui, c'est vrai. Donc ce n'est pas que ses cheveux. Ça peut commencer à valoir le coup, mais ça dépend, ça coûte combien. Dès que le client passe à l'étape de ça coûte combien, ça veut dire que même si tout n'est pas réglé, le produit est en train de l'accrocher. Sinon, il ne demandera pas le prix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous ne saviez pas ces détails, parce que si on cherche les cheveux, on connaît la puissance, on sait c'est pour les cheveux, c'est telle forme, mais tout ce que je viens de citer là n'est pas dans la fiche technique de ces cheveux. Mais le connaître vous permet de vendre. Vous allez voir par exemple des gens au Bénin, je ne donnerai pas de nom, on a certains grands dignitaires de l'Église catholique. Le fait par exemple qu'ils sachent, si par exemple vous allez voir un gars comme Paraiso, le fait qu'ils sachent que vous êtes ami avec Pia ou que votre fournisseur en communication c'est la fille de Pia, et ainsi de suite, ça vous suffit à décrocher une commande parce qu'ils sentent que, ah, ça ils sont entre eux. C'est les notes. Vous allez voir un franc-maçon. S'il sait que vous êtes franc-maçon, ça change tout. S'il sait que votre père est franc-maçon, ça change tout. Mais vous devez, ça fait partie des caractéristiques de votre produit. Il y a des gens, vous êtes à Dia, ils sont à Dia, ça suffit. Vous allez le voir, il découvre que vous êtes à Dia comme lui, c'est fini. Il a acheté. Ou parfois, vous êtes porte-vie comme lui. Il y a toutes ces cordes-là qui font partie des caractéristiques de votre offre. Je donne un exemple. Vous pouvez aller voir un fournisseur, vouloir lui vendre un terrain. Il découvre que vous êtes dans une société qui fait aussi, par exemple, du recrutement. Il sait que son enfant est au chômage. Quelqu'un peut acheter un terrain chez vous simplement parce qu'il sait que. Ayant acheté le terrain, il a plus de chances de recommander son enfant pour recrutement. Il a toujours acheté le terrain, on n'a jamais acheté, il n'a pas besoin, mais il n'est pas à ça prêt. Car ça vient de prendre un terrain, ça me offre un outil de lobbying sur le recrutement de mon enfant. Quelqu'un peut acheter un terrain à cause d'un recrutement. Parce qu'il découvre que, ah, ces gars-là sont des vendeurs d'immobilier, mais ils sont aussi des recruteurs. Il vaut mieux être en bon terme avec eux. Il y a des gens avec qui vous faites de bonnes affaires parce que vous dites, tel que je vois ces gars-là, ils vont aller loin dans la vie, il vaut mieux être en bon terme avec eux. Il y a des gens qui raisonnent comme ça pour faire des affaires. En tout cas, dans les grands-là, c'est pas faire des biscuits de bonbons. Les gens calculent tout ça. Il y a des gens qui viennent te demander des services, tu n'as pas envie de dire, mais fais au moins minimum, on ne sait pas le quoi demain est fait. Un patron fait rapidement quelques calculs de potentialité sur l'avenir. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut apprendre dans la vie à regarder comme Dieu d'ailleurs, non pas qui les gens sont, mais ce qu'ils peuvent devenir. Trop souvent, vous regardez qui les gens sont et pas suffisamment ce qu'ils peuvent devenir. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un est étudiant ou élève à l'école de police, vous pouvez être ami avec lui. Maintenant, 6 mois, il va devenir commissaire. Vous allez avoir du mal à le voir. Si vous êtes intelligent dans la vie, vous avez l'opportunité de rencontrer un enfant ou un jeune élève à l'école de police, il doit devenir votre ami. Parce que vous pouvez avoir un commissaire ami parce que vous l'avez connu à l'école de police, mais ce n'est pas sûr que vous allez avoir un commissaire ami quand il est nommé commissaire. Donc, si vous êtes un vendeur, vous tombez sur quelqu'un qui est dans cette situation, si vous n'êtes pas intelligent, vous dites, bon, mais l'étudiant, il n'a pas d'argent. Ah non, il est étudiant aujourd'hui. Dans 6 mois, il sera commissaire. Ah, il est aujourd'hui candidat au concours de la magistrature. Dans 1 an, il sera magistrat. Ça change tout. Ça change tout. Et le vendeur doit avoir ce niveau d'intelligence sociale. Et donc, le produit n'a pas d'avantages et d'inconvénients, il n'a que des caractéristiques. Il a des caractéristiques que le client peut trouver avantageux ou peut trouver désavantageux. Et quand vous commettez l'erreur de faire une liste d'argumenter avant de partir, ce qui se passe, c'est que vous perdez les ventes vous-même, vous sabotez les ventes vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez arriver chez un client ou une cliente et faire le zoom sur ce que vous croyez bon, alors que c'est ce que la personne déteste le plus. Donc il y a deux choses qu'elle aurait pu, si vous étiez trouver dans votre produit qui vont la séduire, elle va acheter. Mais plus vous voulez bien faire, plus vous gâtez la vente. Vous voyez par exemple quelqu'un qui voit une belle Mercedes que vous vendez. La Mercedes lui plaît. Il a envie de l'acheter parce que c'est une voiture robuste, c'est un vieux pépé à la retraite. Il se dit, bon, c'est une voiture qui ne tombe pas en panne, c'est quand même une bonne voiture pour ma retraite. Et puis, vous commencez parce que vous parlez beaucoup et que c'est vous qui avez les arguments. Et puis, vous voyez, c'est la dernière Mercedes, c'est un moteur turbo, ça peut faire 300 km en 2 secondes. C'est une voiture décapotable, ceci. Pendant que vous parlez, le gars se dit, c'est vrai en plus, hein. J'ai mon petit-fils là qui a 18 ans et dès que je connais ce petit, il peut prendre la voiture pour sortir. Voiture 300 km en 2 secondes. Et ces petits-là vont prendre la voiture la nuit. Il va aller se tuer. On dit voiture décapotable. Il te dit rien, il dit bon, frère, on va voir après. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a vu les valeurs de la voiture. Ça lui plaisait. En voulant trop parler et en voulant de manière délibérée attirer des zooms sur des choses que lui n'a pas montré qu'il aimait, mais que toi tu crois qu'il va aimer, tu as zoomé sur des choses qui lui rappellent que, ah, il y a des problèmes. Ça, c'est un désavantage. Si c'est quelqu'un, un bavard, c'est ce qu'on appelle une objection. Oui, mais attention, ça c'est dangereux plutôt. Et non, c'est pas dangereux, c'est en d'acheter une voiture pour la puissance. Plus vous parlez, plus il a peur. Ça arrive souvent aux vendeurs. Et pour vous, c'est quand vous êtes le grand vendeur, vous parlez, vous parlez. Vous ne savez pas que vous êtes en train de l'éloigner de plus en plus de votre produit. Et plus vous parlez, plus il finit par dire, bon, on va voir après. Vous venez de tuer votre vente parce que vous avez attiré l'attention sur ce que vous n'avez pas eu la certitude que lui aimerait. Une femme rentre dans un prêt-à-porter. elle voit une robe, ça lui plaît bien parce que c'est la couleur rouge. Elle est en train d'hésiter. Vous dites, ah oui, vous ne voyez pas? Regardez comment ça a la forme. Il y a une fente ici. Et puis là, écoutez, si vous portez, bon, comme vous avez une forte poitrine, vous allez voir, ça fait un grand décoté. Vous commencez à lui décrire quasiment une robe pour prostituée. Elle va dire, ah bon, ah bon. Quand vous commencez à penser à tout ce que vous décrivez, bah, si c'est une femme minimalement vertueuse, même si a priori la couleur lui plaisait, en croyant que vous êtes en train de la convaincre, vous l'éloignez de votre produit. Mais si c'est une prostituée de Jonquet qui était arrivée, vous avez le même argument, c'est pour ça qu'elle va acheter. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à vanter une robe sans connaître la moralité, les goûts et les tendances de celui ou de celle que vous avez devant vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Et ça suppose que le vendeur ne peut pas parler trop. Le vendeur doit plutôt écouter, repérer, tirer les verres du nez, discerner. C'est comme quelqu'un qui conduit le client pour l'acculer dans le coin. Quand un vendeur pose des questions et parle, c'est juste pour avoir de quoi coincer le client. Ce n'est pas pour parler. Vous n'avez rien à dire en tant que vendeur. Quand on dit présenter un produit, là, vous n'avez pas à présenter tant que ça le produit. Vous devez plutôt comprendre qu'est-ce que le client veut, vous débrouiller pour qu'il perçoive dans votre produit ce qu'il veut. Mais ce n'est pas à vous de présenter le produit. Vous allez dire quoi sur le produit? Et même quand on parle de présentation du produit, vous parlez par exemple de l'immobilier. Il y a des gens auxquels je ne présente un terrain qu'en montrant le côté rentabilité de l'investissement. Je sais qu'ils veulent gagner de l'argent. Je leur demande comment dans 2 ans, 3 ans, ils peuvent avoir doublé leur capital. Il y a des gens auxquels je montre le côté sécurité de l'avenir. Achète des parfums aujourd'hui, quand tes enfants auront 18 ans, tu vas payer leur étude avec ça. Parce que c'est ça qui est important pour lui. Et à d'autres, c'est parce qu'il veut construire. Ah, le terrain est bien situé, si tu construis une résidence ici, imagine, c'est dans un beau quartier. Chaque client, même s'ils veulent tous acheter un terrain, ne veulent pas tous la même chose. Et il faut avoir l'intelligence de repérer dans quelle catégorie se trouve le client pour savoir sur quel aspect du terrain il faut le concentrer pour que lui, il achète. Donc, c'est un travail de haute psychologie que de vendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, évitez de bavarder beaucoup. Ça ne sert absolument à rien. C'est comme exactement, je reviens, écoutez, vous rencontrez une femme, au premier rendez-vous, vous parlez pendant 2 heures de temps. Elle se tait, vous écoute. Vous êtes un idiot. Parce que c'est elle qui va vous connaître parfaitement, rapidement, alors que vous ne savez rien d'elle. Au minimum, parlez à quantité égale ou laissez-la parler plus que vous. Quand vous avez la bonne information, il vous faut quelques touches pour régler tout. Mais si vous parlez beaucoup, vous vous livrez plutôt, vous n'avez rien sur l'autre, c'est vous qui êtes en situation de faiblesse. Parce que l'information est l'aide de la guerre. Celui qui en donne le plus, c'est celui qui est le plus vulnérable. Celui qui en acquiert le plus, c'est le plus fort. Oui. Vous étiez déjà là quand j'ai parlé plusieurs fois de la technique de ICC. Oui, c'est ça. Vous venez au club comme on vient au cinéma. On choisit les films. C'est ce que je disais la semaine dernière. Tout ce que nous donnons ici se tient et a un système pour réussir. Donc, vous ne pouvez pas venir au club comme on va au cinéma parce que chaque jour, ce que je dis est important pour l'ensemble. Alors, j'ai expliqué ça ici, je ne sais plutôt dans quel séminaire, quand je parlais, ça veut dire quand on a parlé de lancer des affaires sans capital et consorts. Toute personne, d'abord, a une logique, a des intérêts. Quand quelqu'un estime que ses intérêts sont bien gérés par vous, il vous suit. En matière d'argent, par exemple, les gens veulent gagner gros. Ils veulent gagner rapidement. Ils veulent être sûrs que leur gain va se réaliser. C'est les 3 choses qu'ils attendent. Chaque fois que vous arrivez à leur démontrer ça, je ne dis pas de leur dire, je dis de leur démontrer ça, de leur prouver, en tout cas au niveau de leur perception, que ce soit vrai ou faux, ils vous suivront. Si vous avez un bon produit que vous n'avez pas à démontrer aux gens qu'il est dans leur intérêt de le prendre, ils ne vous suivront pas, même si le produit est bon. Mais si vous avez un mauvais produit et que vous avez à leur démontrer qu'il est bon, ils vous suivront, même si il est mauvais. Mais attention, comme je disais, ça peut ne pas marcher longtemps. Mais vous suivront d'abord. C'est comme le cas de ICC. Et j'ai donné ici une technique pour, par exemple, faire en sorte que Romuald arrive à prêter 1 million. Le principe, c'est que, hélas, l'esprit humain est idiot. Plus ça paraît gros, plus les gens y croient. Et l'arnaqueur se permet des choses que vous et moi ne pouvons pas nous permettre. Donc, au finish, il ne peut pas gagner dans la durée. Mais il lui est facile, puisqu'il y aura toujours des idiots, de gagner à court terme. D'accord? Et quel est le principe de base d'un escroc? Il est le suivant. Je veux que quelqu'un me passe 1 million de francs. Je sais que si je te demande 1 million de francs, tu ne me passeras jamais. Je me débrouille pour avoir des économies même de 50 000 francs que je mets de côté. Je viens te voir. Et mon frère Jacques, j'ai une affaire là. Je suis sûr à 1000% que c'est rentable. Passe-moi 2 000 francs. Je te promets que d'ici 10 jours, je te donne 3 000 francs, c'est-à-dire 50% de profit. Tu vas te dire, il doit être un menteur comme tous les autres, même 2 000 francs après tout. Je verrai bien. Ça ne coûte rien. Donnons-lui 2 000 francs. Tu lui prêtes 2 000 francs, il prend 1 000 francs dans ses 50 000 francs qui étaient déjà là, il les ajoute. 2 jours après, il te ramène tes 3 000 francs. Il dit, mon frère, tu vois, je te disais, non, l'affaire a tellement marché que je te disais, une semaine, en 2 jours, c'est déjà fait, tiens tes 3 000. Il dit, hé, il a de bonnes affaires. Et il s'en va, il t'oublie. Une semaine après, il dit, mon frère, l'affaire là, comme j'avais dit, ça a grandi. Aujourd'hui, j'ai une commande de 10 000 francs. Trouve-moi les 10 000, je te donne 15 000 francs dans 10 jours. Généralement, si tu as 10 000, tu lui donnes, tu vas lui donner certainement. Il t'a prouvé qu'il est honnête, il est rapide. Tu lui donnes les 10 000. Il prend 5 000 dans les 49 000 qui restent. Au bout de 3 jours, il te ramène ton argent. Ça veut dire que là, il lui reste 44 000. Il dit, ah, un gars, il donne 50% d'intérêt. Il dit 10 jours, l'argent est prêt avant. Et puis, il est ponctuel, tout ça. Ça, c'est un bon gars. Il faut faire affaire à ce gars. Il ne te dit rien. Il attend 10 jours passés encore. Il vient de dire, ah, il vient d'avoir un gros coup là. Il a une commande de 100 000 francs. Donc lui, il va te trouver peut-être 130 000 parce que là, le montant est un peu gros. D'ici 10 jours, tu vas lui donner. Si tu n'as pas, tu iras prêter pour lui donner. Là, tu vas te dire qu'il y a de l'argent gagné. Si tu veux gagner 30 000, tu vas voir quelqu'un pour lui dire que de donner 100 000, tu vas donner 110 000 francs. En te disant, tu vas gagner 20 000 francs. C'est comme ça les gens font. Tu vas lui donner tes 100 000. Il ira prendre 30 000 là, il lui restera donc 14 000 et il te donne ces 30 000 en moins de 2 jours. C'est-à-dire que pour toi, c'est que ce gars-là, il ne peut pas mentir, tu le vois debout. Où lui va trouver 130 000? C'est que tu penses qu'il a vraiment dépensé tes 100 000. Donc vraiment, il doit avoir une grosse affaire qui marche. Si tu es là et qu'il t'oublie, au bout d'un mois, il revient et dit donne-moi 1 million. Si tu en as, tu vas lui donner les yeux fermés. Ou bien, parce que tu vas te dire, mais écoute, quelle affaire je peux faire pour gagner 300 000 en si peu de temps? Il faut lui donner. Si tu n'as pas, tu vas appeler quelques amis, j'ai une bonne affaire là qui m'apporte 30% d'intérêt. Je vous donne vos 10%, moi j'ai mes 20%, donc prêtez. C'est comme il s'est fait. Les gens sont partis s'endetter chez leurs amis pour mettre à ICC. Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leur terrain, ils ont vendu leurs enfants, ils ont vendu leur mari pour mettre dedans. Le principe, c'est quoi? Ce gars-là ne vient pas te baratiner à la bouche pour te dire de lui faire un prêt. Il fait comme s'il n'attendait rien de toi et il met en place une stratégie pour te. Le mot magique, c'est ça, démontrer. Il montre, il ne dit pas. C'est le secret de ces gens. Au début, ça allait toujours gratuit. Après, il faut envoyer juste des frais de timbre. C'est, vous voyez, c'est progressivement. Il passe du gratuit, là, tu n'as pas de méfiance. Il te demande sa fiabilité. Il demande un peu, te demande sa fiabilité, ainsi de suite. Tu te mets en confiance et quand il veut te smacker, il prend le gros et il disparaît. Maintenant, ce principe peut être appliqué dans les affaires, honnêtement. C'est que si par exemple vous avez un projet sûr, certain, vous savez que ah, vous avez vraiment une belle affaire, honnêtement, vous êtes chrétien, vous craignez Dieu, on ne veut pas vous faire confiance, vous appliquez la même stratégie, ils vont vous donner de l'argent. Parce que les hommes veulent gagner, ils veulent gagner gros, ils veulent gagner rapidement. Chaque fois que ces trois conditions sont réunies, ils vont vous donner de l'argent. Même si tout le monde ne vous le donne pas, il y en aura qui vont vous donner. C'est aussi simple que cela. Donc, le secret, c'est que comme les gens fonctionnent par perception, tu peux être un escroc et leur démontrer que tu es honnête. Ils vont te traiter comme quelqu'un d'honnête. Comme tu peux être honnête et ne pas avoir les bonnes idées pour leur démontrer que tu es honnête, ils vont te traiter comme malhonnête. Voilà le problème de la perception. Mais quand je dis ces choses, j'insiste toujours, bien mal à qui ne profite jamais. Si quelqu'un utilise cette stratégie pour faire l'escroc, il va finir en prison. Même s'il ne finit pas en prison, l'argent qu'il a ne réalisera jamais rien. On va faire un séminaire là-dessus. Quand vous volez, la vie se charge de vous le prendre au centuple. Si vous semez dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit au centuple. Mais si vous semez dans l'œuvre du diable par le vol, il vous paye toujours au centuple. C'est des règles de la vie. Tu vas voler 100 000 francs. Tu rentres à la maison, ta femme est malade. Tu as déjà tout dans l'hôpital. Tu ne fais même pas le lien. Ton vol est ça. Hein. Demain, un ami t'escroque. Tu dis, ah, il m'a escroqué, tu te plains. Tu oublies que la Bible a dit, on te traitera comme tu as traité les autres. Et Dieu fait en sorte que rapidement, chaque chose que vous prenez qui n'est pas à vous disparaît dans la nature. Vous n'en jouissez jamais. Sinon, les grands bandits auraient des réalisations. Vous n'avez jamais vu un grand bandit, un voleur. Les gars réalisent, des gens travaillent dans la fonction publique. Ils volent pendant 30 ans. À leur retraite, ils n'ont pas de maison. Il y a des gens que je connais, ils ont été en boîte de nuit, payer des bouteilles de champagne à 1 million pour les filles et consorts. Ils n'ont pas de terrain dans leur vie aujourd'hui. Ils sont retraités. C'est possible? Regardez les gens qui ont été ministres 27 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans. Regardez comment ils vivent. Les transitaires, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas acheté? Aujourd'hui, ils sont tous des mendiants, ils sont tous des clébés. Pourquoi? Bien mal à qui ne profite jamais. Je vais avoir le temps de faire un séminaire pour vous le démontrer, mais notez ça. Donc, j'ai beau vous apprendre ça, si vous utilisez ça pour voler, je suis qui devant Dieu que je vous ai déjà dit que ça ne sert à rien de voler avec. Alors, comment faire pour ne pas être intimidé quand on tombe sur des clients influents? Alors, la notion de timidité est toujours relative à la perception, une fois encore, qu'on a de soi et qu'on a des autres. Être timide, c'est que dans certaines circonstances, vous percevez la situation comme une situation dans laquelle vous êtes en position de faiblesse. Et quand vous vous percevez comme en situation de faiblesse, vous vous comportez comme quelqu'un de faible. Vous avez envie de vous replier, de fuir, de vous faire tout petit, de vous effacer. Alors que dans d'autres situations, vous avez l'impression que vous êtes en position de force, et là, vous avez envie d'être expansif. Donc, quand en général, on dit que quelqu'un est timide, il n'est jamais timide partout. Il y a des gens qui sont timides dans des petits groupes et qui ne sont pas timides dans des foules. Il y a des gens qui sont timides dans des foules et qui ne sont pas timides dans des petits groupes. Il y a des gens qui sont timides avec les garçons et qui ne sont pas timides avec les filles. Il y a des gens qui sont timides avec les filles, mais pas avec les garçons, ainsi de suite. Donc, en réalité, les gens timides ont des conditions dans lesquelles ils sont timides. Ils ne sont pas timides partout. Et les conditions dans lesquelles ils ne sont pas timides sont les conditions dans lesquelles ils n'ont pas l'impression d'être défavorisés. Leur perception d'eux-mêmes et des autres leur donne l'impression qu'ils sont en position de force. Alors que dans les autres situations où ils sont timides, ils ont l'impression qu'ils sont en position de faiblesse. Écoutez, si vous êtes en position de faiblesse, vous êtes en position de faiblesse. Si c'est la réalité. Maintenant, si je dois répondre d'un point de vue chrétien, je dirais, je puis tout par celui qui me fortifie. Le chrétien doit se voir, non pas comme le petit homme qu'il est, mais comme le chrétien qu'il est. C'est-à-dire comme un homme dont Dieu a décidé de faire sa demeure. Comme un tabernacle du Saint-Esprit. Et comme nous le voyons avec Dieu dans la Bible, Dieu a pour spécialité de prendre les gens qui ne sont rien, comme Gédéon, comme Joseph, comme Moïse, comme même Abraham, comme Jacob. La spécialité de Dieu, c'est de prendre, comme il dit, les choses les plus viles pour confondre les sages. De prendre les gens dans la boue pour les asseoir à la table du roi. C'est de prendre les petites choses pour ridiculiser les grandes. C'est d'abattre les grands arbres pour élever les petits rameaux. Ça, c'est le boulot de Dieu. Il aime ça. Comme il dit, il adore briser les orgueilleux et élever les humbles. quand vous connaissez Dieu, si vous avez vraiment Dieu avec vous, votre perception des situations, des rapports de force change. Vous pouvez être quelque part où tout le monde a de quoi vous écraser, mais quand vous savez qui est en vous, si ce n'est pas à la bouche, vous le croyez vraiment, vous avez l'assurance qui vient non pas de qui vous êtes, mais de qui vous savez être en vous. Si vous savez comment activer le Saint-Esprit, comment activer ses anges pour vous protéger, vous pouvez être quelque part où il n'y a que des tueurs, ne pas avoir peur, parce que vous savez de quoi Dieu est capable. Mais si vous ne savez pas de quoi Dieu est capable, et que vous ne regardez que vos propres forces, vous ne pouvez qu'avoir peur parce que de toute évidence, vos forces sont incapables de tenir. Je disais la dernière fois ici que, en réalité, la peur révèle l'orgueil. Il n'y a que les orgueilleux qui ont peur. Les humbles n'ont jamais peur. Humble, ici, je veux dire quoi? Je parle de l'humilité qui consiste à savoir que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que nous ne pouvons rien par nos forces, mais que nous ne pouvons les choses que par la force, l'esprit, la sagesse de Dieu. Celui qui sait qu'il n'est rien par lui-même, mais qui peut tout par Dieu, ne peut jamais avoir peur. Parce que il ne peut jamais se sentir en difficulté face aux situations. Parce que le Dieu qui fait sa force ne peut jamais être en situation de désavantage par rapport à une situation. Mais qui a peur en général? Qui panique en général? On pense que la panique est un signe de faiblesse. Non, c'est les gens les plus orgueilleux qui paniquent. Pourquoi? Quand est-ce qu'on panique? On panique après avoir d'abord cru qu'on est capable de faire quelque chose par soi-même. La réalité nous rappelle qu'on est capable de rien. On panique quand les plans changent. C'est-à-dire que le plan initial, c'est bon, moi, je vais arriver là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va marcher. Quand on parle la grâce de Dieu ou par le concours du diable, la réalité vous rappelle que tu fais du malin pour rien, tu ne peux rien. Regarde, vous paniquez et vous commencez à pleurer. C'est-à-dire que l'orgueil, rencontrant la réalité, se transforme en peureux qui a envie de pleurer. Alors que l'homme humble dit d'avance, le monde est compliqué, moi, je ne peux rien, je sais que je ne peux rien. Je me prépare proprement, je veux aller faire une vente, je veux aller travailler. Seigneur, je ne peux rien, mais je peux tout par toi qui me fortifie. Je veux aller parler à un client 10 minutes, je prie pendant une heure de temps. Quand je sors là, rien ne peut se passer qui va m'effrayer, m'intimider. Parce que ce qui est sorti, je sais que ça ne peut pas être intimidé par quelqu'un. Donc paradoxalement, plus vous croyez que vous êtes quelqu'un et que la réalité vous rappelle le contraire, plus vous allez avoir peur, plus vous allez être timide. Plus vous connaissez Dieu et que vous comptez sur lui, plus vous semblerez humble pour certains. Parfois même trop humble, parfois même bête. Mais vous, vous ne paniquez jamais, vous êtes fort. C'est pour ça que vous allez voir par exemple les grands maîtres de karaté, de kung-fu et consorts. Quand quelqu'un est fort, il ne s'agite pas. Vous n'avez jamais vu un grand maître dire « Je vais te frapper maintenant, je vais te frapper ». Personne qui sait tuer quelqu'un ne parle comme ça. Quand quelqu'un sait tuer, il ne va jamais te dire « Attention, attention petit », il ne va jamais te faire ça. Mais celui qui te menace là, c'est qu'il n'est en général capable de rien. Celui qui dit « Attention, je vais te frapper là », il n'est capable de frapper personne en général. Ceux qui savent vraiment frapper les gens ne parlent même pas. Et ils ne paniquent même pas. Ils ne perdent jamais leur self-control. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Je veux dire par là que pour ne pas être intimidé par les gens qui sont plus importants que vous, il faut savoir que par rapport à Dieu, qui vous êtes, qui ils sont. Et si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a envoyé faire, vous n'avez pas à avoir peur. Écoutez, Dieu a envoyé Moïse rencontrer Pharaon pour lui vendre l'idée qu'il est temps de laisser sortir les Juifs et qu'il est dans son intérêt de laisser sortir les Juifs. Il avait de quoi être intimidé, mais il a fait. Lui-même, il était intimidé. Il a dit comme ça à Dieu, mais Seigneur, comment je peux? Et vas-y, dis simplement que tu viens de la part de je suis. Il dit c'est tout, oui, c'est tout. Bon, comme tu doutes, prends mon bâton. Il dit c'est tout, oui. Bon, utilise mon bâton pour démontrer le serpent. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a fait là, les signes, consistait à dire quoi? Regardez Pharaon, oublie Moïse. Regarde ce que peut celui dont Moïse parle. Donc, si vous savez qui est Dieu, vous n'avez pas à être intimidé par un homme. Mais si vous croyez que vous êtes quelqu'un, c'est sûr que vous allez être intimidé par beaucoup de personnes, parce que des gens plus forts que vous, ils s'en trouveront toujours. On va s'en arrêter là, on va prier. Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur parce que tu étais une fois encore là, toujours fidèle au rendez-vous, absolument fidèle, toi qui ne changes pas. Tu nous as encore utilisé Seigneur pour partager ta parole, tu as encore touché des cœurs, tu as ouvert des esprits, tu as fait reculer des ignorances, tu as équipé des gens, tu les as outillés pour accomplir ce que tu attends de chacun de nous. Donne-nous Seigneur de te craindre, de t'aimer, de t'obéir, de faire ta volonté, de faire en sorte que ton règne vienne dans notre pays, dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos activités Seigneur. Donne-nous de te connaître davantage, de vivre par toi, de marcher avec toi, d'accomplir, y compris dans le domaine commercial, des exploits par toi. Seigneur, fortifie-nous, donne-nous de voir ces choses-là comme dans un terreau poussé dans nos vies, porter des fruits énormes qui vont nous permettre de te glorifier. Donne à chacun de nous d'être bon, d'agir en te craignant, d'agir en t'aimant, d'agir en s'aimant, mais aussi en aimant les autres, d'agir d'abord pour servir et non pas seulement par intérêt. Car tu as dit que c'est quand nous donnons que nous recevons, c'est quand nous semons que nous récoltons. Donne-nous, Seigneur, chacun, y compris dans le domaine de la vente, d'être des semeurs qui vont récolter, d'être des gens qui bénissent les autres pour être bénis. Seigneur, touche nos cœurs, édifie-nous, fortifie-nous, protège nos familles, protège nos parents, protège nos frères, nos sœurs, donne-nous d'aller encore plus loin dans ta connaissance, dans la vie avec toi. Accompagne-nous maintenant, Seigneur, nous allons rentrer, protège nos allées, nos retours, protège nos activités demain, bénis-les, toi qui renouvelles tes bénédictions chaque matin. Donne-nous d'être encore plus nombreux demain, être impactés par toi, être bénis par toi. Sois loué, sois magnifié, Saint-Esprit de Dieu, fidèle comme toujours tu as été. Merci Seigneur, parce que tu as été extraordinaire. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?